Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui actuellement au théâtre vous emmène par le bout du nez, François Berléand. Une grosse tête qui en février ouvrira de bonnes bouteilles au théâtre de l'Œuvre, François-Xavier de Maison. Une grosse tête grand cru classée du domaine des ingénus, Valérie Mérère. Une grosse tête dont on espère qu'elle a hérité de la cave de son père, Michel Bernier. Une grosse tête journaliste au départ, mais avec un variant chanteur-imitateur, Christophe Beaugrand.
Bonjour.
Une grosse tête dont tous les meubles datent des années 70 non. Et viennent de chez Conforama, parce qu'à l'époque, il y avait un buffet campagnard gratuit. Bernard Mabille. C'était la belle époque, le buffet campagnard gratuit.
C'était les galeries Barbès.
Ah, c'était les galeries Barbès.
Ah non, mais il y avait les galeries Barbès en ce moment, comme j'ai pas beaucoup d'argent. Je vais au Galerie Barbès et je paierai que dans 5 ans.
Ah, c'est bien ça. Non, mais il a fait tous les meubles.
Vous connaissiez mieux Carrefour Market, dites donc.
Oui, mais alors, j'avais pas les mêmes chansons.
Il paye plus.
Bah, il payait, hein, parce que
c'est fini. Vous faites les foires à vin, vous, monsieur de Maison.
Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette
question. La réputation, tout de suite. Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr.
Non, c'est septembre.
Ah, c'est septembre.
C'est septembre, exactement. Ouais. C'est les fêtes, François Berléand, on prend notre caddie et puis on remplit.
Ils sont mignons.
Ah, justement, est-ce que votre papa vous a laissé une cave alors, Michel ?
Magnifique cave.
Sérieux ?
Ah, sérieux ?
Il n'avait pas tout bu ?
Non, pas. Non, mais papa, il buvait plus du champagne que du vrai vin, donc il nous a laissé de quelques bouteilles. Et ma grand-mère, qui n'y connaissait rien en vin, disait : faut aller chercher une bouteille à la cave, prends ça, lui, de la poussière, parce qu'elles sont trop vieilles.
C'est mignon.
Et vous, vous consommez. Mais tout de suite, vous avez une belle cave.
Alors moi, je suis à flux tendu.
À flux tendu. Donc, il n'y a pas de réserve.
Il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas de poussière.
Il n'y a pas de temps. On n'a pas le temps.
Vous buvez pas, hein, monsieur.
C'est en cubi, moi.
Et c'est direct.
C'est ce que vous vouliez savoir.
Mais ça passe même pas par le verre. Hein. C'est
la
direct
villageoise.
Le seul tonneau qui est à la maison, c'est vous. J'ai une première citation pour monsieur Grimaldi qui habite Tournest en Belgique.
Oh, dis donc, on commence direct par une question belge. C'est bien ça, hein, on adore.
Hein. Oh non, monsieur Beaugrand, n'allez pas commencer.
Bon, c'est vous qui me cherchez. Hein.
Non, non, non.
Dis donc, hein, vous êtes comme ça. Hein.
Qui a dit : j'aimerais qu'on m'explique quel était l'intérêt pour Noé d'embarquer un couple de moustiques.
Ah, c'est pas Florence Foresti ?
Non, Émeric Caron, non, Foresti, non.
C'est Coluche.
J'ai entendu la
réponse. Jean-Yann,
ouais. Bonne réponse de François-Xavier de Maison. C'est assez logique, au fond, il a raison. Les moustiques, on n'aurait pas dû les embarquer au départ. Il y en a d'autres, remarquez, des animaux qui n'auraient...
Oh oui, ah, oui.
Le pangolin.
Je sais pas s'il y en avait sur l'arche de Noé.
Il a raison. Il y a le pangolin. Et s'il y avait un déluge demain, moi, j'emmène pas le couple Véran non plus.
Ils sont pas commodos, hein, les Vérans.
J'ai une autre citation pour Antoine Dumonchel, qui habite Poligny, c'est dans le Jura, qui a dit « Si au moins le gouvernement avait créé un impôt sur la beauté, j'aurais pu espérer une exonération.
» Régine.
C'est Sim.
Mais oui, c'est Sim, évidemment. Ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Pour Inès Babois, qui habite Nice, qui a dit « Un bon truc, si vous voulez savoir si vos employés ont de l'imagination, c'est de leur offrir de rembourser leurs dépenses professionnelles.
» Ah, c'est pas mal, ça.
C'est pas mal.
C'est français ou pas ?
Non, c'est francophone.
Gueuluc, québécois.
C'est Pierre Légaré, le Québécois. Là là. Bonne réponse de Michel Bernier.
Elle est déchaînée.
déchaîné.
Une citation pour Pierre Daly qui habite Meaux. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Une fois, avec cette citation d'ailleurs, qui nous avait déjà coûté 300 euros,
il y a là, vous sortez toujours les mêmes trucs.
Oui, quand on a donné un chèque RTL, je les mets de côté, deux ou trois ans après, je les ressors, vous voyez.
Pour voir si on se rappelle.
Pour voir si ça rentre.
Voilà. Ça rentre pas, généralement.
C'est un vieux truc que j'ai, ça, j'aime bien voir si ça rentre.
Moi, dans trois ans,
et parfois, ça marche.
Je peux vous dire que dans trois ans, ça rentrera plus
du tout. Ça
lui
coûte pas toujours
tout,
300 euros. Hein.
Ouais, parfois plus.
Qui a dit, s'il suffisait de s'installer en position du lotus pour accéder à l'illumination, toutes les grenouilles seraient des Bouddhas.
Ressortez le chèque.
C'était un journaliste ?
Exact, un journaliste.
Et c'est français. C'est français.
Un journaliste.
Un journaliste français qui a eu travaillé à Combat. Oui, Ensuite, il a dirigé le mensuel Marie France. Et il a même fondé le Figaro Magazine.
Powells.
Louis Powells. Oh, bonne réponse. Bravo. De François Berléand.
Bravo.
Il a fait gagner 300 balles.
Vous avez mis 10 Siri.
Un peu d'extrême droite quand même, hein, le monsieur Powell.
Ah oui, oui, il n'était pas Figaro Magazine, hein, c'est pas.
Oui.
Il n'a pas fondé Charlie Hebdo, vous voyez.
Et Valeurs Actuelles, je crois même.
Oui, Valeurs Actuelles aussi. Actuelle,
ouais. Ah
oui.
Et Marie-France.
Oui, la pauvre, qu'est-ce qu'elle fout là?
Ça, on n'a pas compris.
Il y a France dans Marie-France.
Oui,
quand même.
Oui, voilà.
C'est le prénom de sa femme, je crois.
C'est vrai?
C'était, je crois.
Marie-France Powell, ça s'appelait?
Eh bien, vous voyez comme quoi vous connaissiez très bien M. Powell, et vous avez retrouvé sa citation. On vient d'économiser 300 balles. Qui a dit, et c'est pour Paul Turpin qui habite Bagnolet, aux enterrements, les Tahitiens portent des chemises à fleurs fanées.
C'est vrai.
C'est mignon.
C'est joli.
Carlos.
C'est Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Valérie Mérès. Une question pour Monsieur Topic, Daniel Topic, qui habite Andernos, c'est en Gironde. Et ça tombe bien, parce que la
question... Andernos-les-Bains.
Oui, si vous voulez.
Soyez précis.
La question nous emmène à Bordeaux, précisément à la clinique Saint-Augustin de Bordeaux. Quelle célèbre opération eut lieu là-bas le 22 février 1915 ?
C'était un homme politique qui a été opéré ?
Ah, c'est pas un homme qui a été opéré.
Une femme, oui.
Une femme politique ?
Ah non, à la clinique Saint-Augustin de Bordeaux.
Est-ce que c'est la femme de quelqu'un de célèbre ?
On est le 22 février.
C'est un rapport avec Amanda Lear ?
Non, du tout.
Et c'est une femme qui s'est fait refaire les nichons ?
Ah non, non,
en 1915.
Bon, 1915.
Oh, non. On refait alors, pardon, est-ce que c'est cette femme qui était célèbre ou son époux ?
Ah non, cette femme était très célèbre.
Une comédienne ?
Et l'opération l'était aussi.
Une aviatrice ?
Non.
Ah, Sarah Bernard.
Sarah Bernard.
L'amputation de Sarah Bernard. Bonne réponse de Valérie Mérès et François-Xavier de Maison. Eh oui, elle a été amputée au-dessus du genou le 22 février 1915.
Quand elle on frappait les trois coups, Guitry disait « Tiens, elle arrive
». Elle a refusé, après cette opération, justement, de porter une jambe de bois ou une prothèse en celluloïde. Alors, elle était parfois assise pendant qu'elle jouait. On l'a portée en chaise à porteur. On l'avait d'ailleurs surnommée déjà à l'époque. Moi, je croyais que c'était un surnom que Thierry Leluron avait donné à Jean-Claude Brialy, mais non. On l'avait surnommée « La mère Lachaise ».
La mère Lachaise, ouais.
Déjà, Sarah Bernard à cette époque, elle avait fait un lifting aussi. C'est une des premières actrices en 1912 à avoir demandé un lifting à un chirurgien américain. Et rien à voir avec l'opération de la jambe, hein, le lifting.
C'était trois ans avant quand même.
Faut pas confondre amputer une jambe et enjamber une pute. Hein. On n'a rien à voir.
Ah, il est en forme, notre Bernard.
Mais ouais, hein. Là, lui-même, il boite un peu, mais il est très en forme.
Je file à Bordeaux après l'émission.
Pour le lifting ou pour la jambe ?
Une autre question, et c'est une question qui a un rapport avec l'actualité. C'est pas très gay, d'ailleurs, quand si vous ne savez pas pourquoi, je vous expliquerai pourquoi on parle d'elle aujourd'hui dans l'actualité. Mais j'aimerais que vous me rappeliez qui a écrit les chansons que c'est triste Venise et n'avoue
Dorin.
Jamais.
Pardon. Françoise Dorin.
Françoise Dorin, bonne réponse. de Bernard Mabille.
C'est Guy Mardel qui chantait.
Oui. Alors, pourquoi on parle de Françoise Dorin? Il y a un papier terrible dans Le Monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la matinale de RTL, on a reçu l'auteur du livre qui vient de sortir chez Fayard, Victor Castanet. Le livre s'appelle « Les Fossoyeurs ». Et ça raconte le problème terrible que connaissent les maisons de retraite, enfin, surtout ceux qui y séjournent.
M'intéresse, là.
Mauvais traitement.
Parce qu'il y a un témoignage de la famille de Françoise Dorin qui explique, alors que c'était quand même 7000 euros
par mois.
7000 euros par mois à Neuilly. Le témoignage dans Le Monde est terrible, terrible, terrible de la fin de Françoise Dorin, qui nous raconte même comment Jean-Pierre allait tous les jours très faible et âgé lui rendre visite. Enfin, il y a tout le détail dans Le Monde. Et j'avoue, ça donne envie de mourir à la maison, hein. Voire même au micro.
Vous faites votre Drucker. Hein.
Pardon ?
Vous faites votre Drucker, là.
Hein. Lui, va mourir au micro.
Vous allez vous accrocher jusqu'au bout. Hein. Vous laisserez la place à personne.
Ça. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs.
Non, mais c'est terrible, je vous jure, ce qui est décrit sur Françoise Dorin, quand même. Elle a perdu 20 kilos en très peu de temps.
Ah bah Bernard, vas-y.
Vous avez l'adresse?
Il y a quelques personnes qui sont intéressées autour de cette table.
En plus, c'est pas loin d'ici, donc c'est
bah
bon.
Oui, c'est ça.
Ah non, non, mais...
Ça peut être intéressant.
En fait, au départ, elle avait une escarre et c'est devenu une plaie profonde qui n'a pas été traitée. Et elle en est morte, hein. C'est ce qu'explique la famille qui n'a pas osé porter plainte à l'époque, parce que voilà, c'est une grosse société, mais tout ça est décrit dans le détail, et c'est assez triste et terrible, parce qu'on aimait bien Françoise Dorin, et quand même, ses chansons, n'avoue jamais, monsieur...
N'avoue jamais.
C'est ce qu'ils vont faire à la maison de retraite.
N'avoue jamais que tu l'aimes.
Grand Prix de l'Eurovision quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu.
Ah bah oui, quand même, c'est vrai, n'avoue jamais. Guy Mardel, quand même.
Il avait un restaurant, d'ailleurs, où il passait sa soirée à vous chanter n'avoue jamais.
Oui, parce qu'il a fait qu'une chanson,
c'est ça. Ça s'appelait chez Pasqua.
Les Balkany venaient aussi, je me rappelle.
Mais il n'a pas gagné l'Eurovision avec n'avoue jamais, monsieur Berléand. Non, 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 il n'a pas gagné.
T'es en train de nous engueuler pour un truc qu'on n'a pas fait, en fait.
Je pensais qu'il avait gagné.
Ah non, il a pas gagné.
Il a pas gagné, voilà.
Il a représenté, je suis même pas sûr que c'était la France d'ailleurs, c'était peut-être le Luxembourg ou je sais pas quoi, mais en tout cas, Françoise Dorin a écrit « N'avoue jamais » et aussi que c'est triste Venise.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. C'est beau, hein.
Ça, ça n'a pas gagné le prix de l'Eurovision.
Non.
J'avoue, on a fait un double hommage.
Ça
à la fois,
parce que les Italiens auraient voté.
Ah oui.
Mais franchement, à la fois Aznavour et Françoise Dorin, ils doivent être contents de nous entendre.
En tout cas, voilà, je vous conseille ce livre qui s'appelle Les Fossoyeurs. Faites attention aux maisons de retraite.
Il y en a d'autres encore. Il n'y a pas qu'elle dans tout le livre.
Pardon.
Il n'y a pas qu'elle pour tout le
non,
livre.
Non, mais évidemment, comme c'est une personnalité, ça ressort. Parce que vu le prix, quand même, voyez ce que je veux dire, la famille.
C'est pour ça qu'elle avait des escarres, parce que personnalité.
Il se surpasse. Hein.
Oh là,
là, il donne tout. Hein.
C'est la quatrième dose.
Il donne tout.
Ah ouais, ça vous booste, tu ne peux pas savoir.
Là, je ne l'ai pas encore comprise.
Il est shooté, là. Chargé.
Une personne alitée, vous voyez. C'est comme ça que vous avez des escarres.
Quand, tu es
quand vous êtes couché.
Oui,
alitée.
Alitée. On dit que vous êtes alitée. Oui, oui.
T'as compris, ça y est ou pas? Non, pas encore.
C'est pas monté encore. Non,
une personne alitée qui
oui, ça va, c'est pas la peine de me l'expliquer. Quand je bute, je bute.
C'est la Neymar du jeu de mots. Une autre question, et on oublie, enfin on n'oublie pas Françoise Dorin, et on l'aimait beaucoup. C'est, elle avait d'ailleurs écrit aussi, ça j'avais oublié, la valise en carton pour Linda de Souza, c'est elle qui avait écrit la comédie musicale. Et aussi les paroles de la danse de Zorba pour Dalida.
Zorba, là-bas.
Vous avez vu la neige à Athènes d'ailleurs, les images.
C'est magnifique.
Il neige à Athènes.
Oui, il y avait
des touristes interrogés.
C'est pas compliqué maintenant. Il neige dans les endroits où d'habitude il fait chaud et il fait chaud dans les endroits où avant il neigeait.
C'est-à-dire comme les boîtes de nuit sont fermées, ils savent pas où la mettre.
Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Une question pour Michel Declaine, qui habite Jouy-les-Tours, c'est dans l'Indre-et-Loire. En 2000, alors qu'elle n'avait que 10 ans, quelle sportive pouvait-on voir aux côtés de Gérard Klein dans la série L'Instit?
C'est la petite tennisman qui est à...
Alizé Cornet.
Pardon, Alizé Cornet. Comment vous savez ça, Bernard?
Parce que c'est le Cornet, il connaît. Allô?
Il connaît toutes les petites filles de 10 ans.
La culture ne m'a jamais été étrangère, Laurent.
Mais non, mais c'est parce qu'il réfléchit. En ce moment, on en parle.
Bah, c'est voilà. Vrai. Alizé Cornet.
Eh bien, en tout cas, c'est bien Alizé Cornet qui avait 10 ans aux côtés de Gérard Klein dans l'Instit. Bonne réponse. Bravo, hein. De Bernard Mabille. Elle a commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans, voyez-vous. Et à 10 ans, je ne sais pas, il y a dû y avoir un casting.
C'est avec une raquette de ping-pong à 4 ans.
Non, mais elle s'est retrouvée en tout cas à jouer dans l'Instit. Vous vous souvenez de l'Instit quand même? Avec Gérard Klein.
Il avait une moto, il allait comme ça de lycée en... D'école en école pour
faire des
conforter les jeunes en détresse. Ouais, c'est bien, ça cartonnait. Hein,
ah, ça cartonnait l'Instit.
Maintenant, c'est Joey Star.
Et Cornet aussi, hein, quart de finaliste hein, quand même.
Pardon?
Elle est quart de finaliste.
Ah oui, elle est quart de finaliste. Cornet, elle est mieux en tennis que dans l'Instit. Ouais. Elle s'y attendait pas parce qu'elle est plus toute jeune, elle a 32 ans. Hein.
C'est pas vrai qu'elle était si
vieux. Oh la vioque.
Pour une tenniswoman, c'est pas tout jeune.
Ah si, c'est vieux pour une tenniswoman. Ouais. 32 ans et c'est...
Oui, mais pour une actrice, non, c'est pas...
Ah, ça commence. Pour une actrice, ça commence.
Quelle horreur.
C'est, mal barré à 32
c'est vrai, à 32 ans, ça commence à merder un peu. Là.
Vous pensez qu'elle peut, elle peut aller plus loin, vous qui suivez bien le sport, monsieur Berléand, la petite Cornet, elle peut...
Ah bah, on sait jamais.
Ouais, excellente analyse.
Excellente analyse.
Notre spécialiste.
On dirait non, mais là, elle a battu Alep, c'est quand même le numéro...
La Roumaine.
Oui, c'est pas rien quand même. Non, elle peut aller loin si elle gagne.
Ouais. Faut pas qu'elle dépasse le terrain.
Elle a battu une Roumaine.
Oui. Ah, ça, c'est pas bien de battre des Roumains.
Ah non, non, non. Faut dire que la Roumaine avait des trous dans la raquette.
Hein. S'il te plaît, laisse gagner, Roumaine. S'il te plaît.
La vitre.
Non, bon,
gentil, laisse gagner, s'il te plaît. Donne réponse, question. S'il te plaît, donne réponse.
Une autre question culturelle. Pour Cyril Verdier, qui habite Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans le Val-de-Marne. Dans quelle œuvre célèbre trouve-t-on le comte et la comtesse Almaviva?
Le barbier de Séville.
Non, pas le barbier de Séville.
Le mariage de Figaro.
Les noces de Figaro. Bonne réponse de François-Xavier de Maison. Qui peut-être a joué chez Rubin dans Les Noces de Figaro, non.
J'aurais bien aimé, c'est beau. Femme, créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct, le tien serait-il donc de tromper? Bonsoir.
C'est beau.
Ça m'a toujours épaté, les mecs qui arrivent...
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça m'a toujours épaté, les mecs qui arrivent à balancer une réplique.
Ouais, mais je connais
ça.
Que celle-là, c'est déjà pas mal.
Ah, c'est bien.
Il l'a dit souvent.
Ouais. Quand t'en connais qu'une, eh ben...
Moi, je peux faire le générique de Starsky Hutch, ça a moins de gueule.
C'est Gustavo Dudamel, paraît-il, le metteur en scène, qui a fait un très bon Noce de Figaro. Allez applaudir à Garnier. Bravo, monsieur de Maison, en un temps.
Je vous en prie,
là, c'est brillant.
Dès que c'est culturel, je sais que je peux y aller.
Vous aimez l'opéra, monsieur?
Énormément, beaucoup.
Oui.
Je suis mélomane, voyez-vous.
Vous sortez avec Mme Bachelot à l'opéra?
Oui, avec mes petites jumelles, on est là comme ça. Non, je ne suis pas très opéra. J'ai pas,
c'est si vous sortez avec vos petites jumelles, monsieur Berléand.
Oui, absolument. Mais on ne va pas l'opéra avec elle. Il ne
faut pas croiser Jean-Luc.
Moi, l'opéra, je connais le gâteau. Hein.
Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous aimez à l'opéra, alors, monsieur de Maison?
Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on aime, François, quand on y va? On aime les noces de
les
Figaro.
Les toilettes.
Elles sont propres.
Il y a le petit verre de vin blanc, moi, qui me plaît bien à l'entracte. Vous savez, il nous, à Vienne, il vous le pose. Et quand vous revenez à l'entracte, eh ben, il est encore là.
C'est pas vrai.
Et il est chaud.
Alors qu'en France, il a disparu.
Ah, j'ai une question intéressante pour Paula Gonzalez, qui habite Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais, parce que vous ne connaissez peut-être pas ces couettes et ces duvets de cette entreprise familiale qui travaille depuis 5 générations, même plus précisément depuis 1870. Ah oui. Couette, édredon, oreiller naturel, plume... Et...
La redoute.
Non, non, non. Et,
chez là.
Non, ouais, et c'est ouais. À Dax qu'on trouve...
Ah, c'est Castex.
Castex. Bonne réponse de Michel Bernier. Comment vous savez ça, Michel?
Mais parce qu'il y a une pub qui passe en ce moment sur les couettes et c'est marqué Castex, évidemment, étant donné qu'on a un premier ministre qui s'appelle comme ça.
Mais c'est de la famille?
Ça nous parle.
Bah, moi, je propose qu'on les appelle, à l'entreprise Castex, pour qu'ils nous passent le premier ministre. On va voir comment ils réagissent.
Ils livrent uniquement à compter de 15 jours.
Ça sonne chez l'entreprise Castex.
Manufacture Castex Service, bonjour.
Bonjour, madame. J'aurais aimé parler au premier ministre, s'il vous plaît.
C'est pas ici.
Comment ça, c'est pas ici? C'est pas l'entreprise Castex?
Oui, mais Plume et Duvet.
Pardon?
Plume et Duvet, oui.
Plumes, ah, il est un peu déplumé, quand même.
Elles sont à combien, vos plumes?
Pardon?
C'est les grosses têtes qui vous appellent, madame. Vous êtes très aimable. Vous êtes sur RTL, profitez-en pour faire de la pub pour vos plumes et vos couettes.
Alors, ne quittez pas.
Ah, on va la voir. Au début, ils disent toujours non, mais après, ils nous le passent.
Couette. Écoutez, il y a la pub. Des traversins naturels.
Il est en train de faire essayer de
mettre. Si on insiste un peu, on va avoir Brigitte.
Allô, bonjour.
Bonjour, c'est RTL, les grosses têtes qui vous appellent.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonne humeur, alors.
Ah bah oui, c'est la bonne humeur. Bah oui, on a appris qu'il y avait des couettes Castex. Ça nous arrivait de nous endormir devant le Premier ministre, mais on ne savait pas qu'il faisait des couettes et des duvets aussi.
Eh bien voilà, simple homonymie, que voulez-vous. Mais en tout cas, ben, on agit, on travaille depuis 1870 dans la bonne humeur.
Mais lui aussi.
Pour bien faire dormir les Français. Sans préférence politique.
Aucun rapport avec M. Castex, alors?
Et non, aucun. Hein, voilà, c'est vrai que c'est un nom du Sud-Ouest.
Ben oui.
Et puis voilà, hein, donc, mais nous, on est à Dax.
Est-ce que vous faites les couettes Édouard Philippe bicolore?
c'est à l'étude. C'est à l'étude c'est au service l'étude. Marketing.
Ah, mais c'est bien. Ah oui, ils sont bons. Ils sont très bons.
Vous êtes très aimable. On va vous envoyer une montre RTL et vous nous envoyez un matelas, d'accord?
Ça va être difficile, hein, comme on voit. Bon. Mais bon, en tout cas, merci pour votre appel.
Eh ben, et pour avec la plaisir. Publicité, sympa, vive hein. Les couettes Castex.
Merci, madame. Ouais.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Michel Bernier, Valérie Mérès, Christophe Beaugrand, Bernard Mabie. Du Théâtre de l'Œuvre, Monsieur François-Xavier de Maison. Et du Théâtre Antoine, Monsieur François Berléand. Non, c'est pas Antoine. C'est où, François?
Théâtre Libre.
Théâtre Libre.
Ah, Théâtre Libre. Libre, c'est à côté.
À côté.
C'est à côté. L'ex-théâtre comédien, mais ça change tellement de nom.
Ils passent leur temps à changer, ce théâtre.
Ah oui, c'était
moi,
l'Eldorado.
Moi, quand j'y avais joué, ça s'appelait l'Eldorado. Ouais. Après, ouais, ça l'Eldorado. A été comédien et maintenant, c'est Libre.
Mon alors que le Théâtre de l'Œuvre, ça a le même nom depuis 1883.
Comme les
comme couettes. Comme les couettes Castex. J'ai une question littéraire, c'est l'horaire. Vous le savez, les auditeurs sont impatients parce qu'ils savent comme j'imagine. Ça chaque jour.
Ils trépignent.
On a l'air con.
Voilà, ils savent si les grosses têtes du jour sont au niveau ou pas, vous voyez.
Ou pas.
Et là, je vais vous parler de M. Maurice Decobra, journaliste, romancier, grand reporter, traducteur. Mais on lui doit une œuvre principale, un titre très connu, qui a même été adapté deux fois au cinéma et même parodié par un autre écrivain ensuite. Quelle est l'œuvre la plus célèbre écrite par Maurice Decobra?
C'est un policier?
Un policier, non.
C'est récent, ça a été, c'est récent.
Pourquoi vous vous marrez?
Parce qu'il a essayé d'aller sur Siri, François, mais il vient de se rendre compte qu'il était en mode avion, donc ça marchait pas. C'est pour ça.
Mais tu sais que pour aller en Siri en avion, c'est compliqué. Hein.
C'est pas grave, on va essayer de trouver.
Alors, qu'est-ce que c'est la question que j'ai abandonné du coup.
On va essayer de trouver honnêtement.
Est-ce que c'est récent, Laurent?
Ah, c'est un succès international, c'est le plus célèbre de ses romans.
Mais il est français, monsieur.
OSS 117.
Non, et il a été ce roman adapté deux fois. à l'écran.
Au cinéma ou à la télé?
Non, au cinéma.
Ouais. Roman d'amour.
C'est Jean Delannoy avec Eric von Stroheim dans un premier temps.
La Grande Illusion.
Il l'a porté à l'écran. Non, pas La Grande Illusion. Oui. Succès international.
Il y en a eu un plus récent.
Il en a vendu à 300 000 exemplaires, vous voyez. Voilà,
à la De Cobra.
Agent X-27.
La non. Marquise des Anges.
Non. Alors, c'est sorti en 1926.
Est-ce qu'il y a eu une adaptation plus récente?
Ça a été adapté deux fois à l'écran. Une fois en 1928, une autre fois en 1955. Ah oui. Et un autre écrivain,
Fort Alamo,
plus contemporain, on a fait même une parodie, enfin, s'est servi du titre pour sortir lui aussi un livre.
C'est un titre que tout le monde connaît.
Oui, oui, ah, oui. Mais oui, c'est pour ça que je vous en parle.
Les bronzés.
Non, pas ça.
C'est de l'aventure, c'est un roman d'aventure.
Ce sont les péripéties ferroviaires d'une jeune veuve.
Ah, c'est la Madone des Sleeping.
Excellente réponse.
La quoi?
Alors là,
j'ai pas compris.
La Dame du Sleeping.
La Madone des Sleeping.
Bravo, monsieur. Oh là là. Ah, oui. 300 000 livres vendus, rendez compte quand même. Tout le monde qui vend 300 000 livres de la Madone des Sleeping.
Bah non.
Un succès mondial pour cet écrivain qui s'appelle, retenez son nom, Maurice De Cobra. Alors là, je vais vous parler de la maison du chat qui plotte.
Ah bah voilà,
du chat qui plotte.
Dis donc, vos questions littéraires, elles sont bien, hein, ce matin.
Quel est l'auteur?
C'est pas du Stendhal, hein.
Quel est l'auteur? C'est pas du Stendhal, mais c'est pas mal quand même. Ouais. Qui a écrit La maison du chat qui plotte?
Marcel Aimé?
Non.
Alors, c'est un auteur classique.
Oui.
C'est Flaubert?
C'est pas Flaubert.
C'est pas Gulu.
Zola. Balzac.
Zola. Ça date de 1830.
Balzac.
Émile Zola.
Balzac.
Honoré de Balzac.
Bravo.
Bonne réponse encore de Bernard Mavis. Voilà.
Ah, c'est amusant.
Je veux pas faire le difficile. Vous avez pas des questions plus difficiles?
C'est vrai qu'il est fort, hein.
Parce que là, vraiment, je m'emmerde.
Alors, il y a qu'à demander.
En fait, Gueluc n'a rien inventé.
Il a dû héberger Paul Elkarat pendant le week-end.
Bah, il a dû bouffer. Il l'a bouffé, oui.
Il a avalé Elkarat.
Ah, le cannibale de Toulouse.
C'est lui. Puis il a la dalle.
Tu peux mettre ton téléphone sur mode avion comme moi.
Hein? Alors là, ça va être plus dur, hein. Plus difficile.
Ah, Bernard, écoute bien.
Il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain américain.
Ah,
non, là, je peux pas. Là.
Et on considère que son roman, Abattoir 5 ou La croisade des enfants, vous voyez, je vous donne son titre principal, est peut-être le roman américain le plus célèbre et le meilleur roman du XXe siècle.
Ah bon?
Quel en est l'auteur?
La croisade des enfants.
C'est pas Truman Capote.
Non, c'est pas Truman Capote.
Paul Roth.
Il est mort depuis longtemps, ce monsieur?
Ah, il est mort depuis un petit moment.
Jack Kerouac.
Comment vous dites?
Jack Kerouac.
Ah, Jack Kerouac, non, non, non.
O'Toole.
Non, cet auteur écrivain américain.
Mark Twain.
Henry Miller.
Non, 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 non. Il a écrit Abattoir 5 ou La croisade des enfants, donc ce roman qu'on considère comme un des meilleurs romans américains du XXe siècle.
C.S. Eliot.
Où il raconte, il faut dire, quand même un passage assez terrible, parce qu'il était engagé dans l'armée américaine, vous voyez.
Steinbeck.
L'infanterie américaine, non.
Fitzgerald.
Non.
Et Hemingway.
Non. Et en 44...
Buffalo Bill.
Non, 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 non. Il est...
Il dit n'importe quoi.
Il n'arriverait pas à terminer. Hein. Il est prisonnier de guerre par les Allemands, donc en 1945, et ils le mettent à travailler dans un abattoir. Sauf que c'est à Dresde que ça se passe, en Allemagne.
À Dresde,
mais de l'Est.
Sauf que les Alliés bombardent
Dresde.
Alors, avec six copains américains, ils réussissent à s'enfermer dans une cave de l'abattoir, le fameux abattoir numéro 5.
Fünf, comme on dit.
Voilà. Et ils vont réussir à se sauver. Ils sont sept rescapés seulement. Et les autorités nazies vont l'affecter à la récupération des cadavres pour la fosse commune.
Oh, sympa.
Et il y en avait tellement qu'ils ont dû terminer au lance-flammes l'ouvrage des bombes, raconte-t-il. Oh là là. Et c'est l'objet de son roman qui s'appelle Abattoir 5 ou La croisade des enfants.
C'est joyeux.
C'est un genre George Orwell.
Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort en 2007, vous voyez.
Ah oui.
À New York, des suites d'une blessure crânienne.
John Lennon.
Non.
D'une blessure crânienne.
Oui, il a chuté. Ça, c'est ma hantise.
Il est tombé.
Il a chuté dans un escalier de sa maison à Manhattan.
C'est votre hantise.
Est-ce qu'il a un nom bien américain?
Non, il a un nom d'origine allemande.
Ah. Otto Preminger.
Non, non, non.
Karl Lagerfeld.
Non, non, mais vous avez au moins l'initiale de son prénom.
Otto.
Kadik, Philippe Kadik.
Alors, Kurt, oui.
Non, Kurt.
C'est Kurt.
Kurt.
Kawai.
Kurt Waldheim.
Non.
Kurt Jürgen.
Kurkuma.
Non.
C'est n'importe quoi.
Kurt Gobel.
Et d'ailleurs, je vais vous dire, je ne connaissais pas son nom, je vais être honnête avec vous.
Ah, d'accord, merci.
Jusqu'à la semaine dernière, en lisant justement le dernier livre de Tonino Benacquista, très réussi, une autobiographie où il raconte comment il ne pouvait pas supporter de lire un seul livre. Il a commencé à écrire alors qu'il n'avait quasi jamais lu un livre, Tonino Benacquista. C'est passionnant, son bouquin. Et évidemment,
un peu comme Nabila, quoi.
Mais il n'a toujours pas lu. Hein.
Il s'est énormément rattrapé depuis Tonino Benacquista. Et évidemment, il cite parmi les auteurs qu'il aime...
Celui-là.
Celui-là, vous voyez. C'est voilà. Comme ça
il s'appelle
que...
comment ?
C'est comme ça que j'ai eu l'idée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la question.
Kurt Wirst.
Non, on connaît ou on ne connaît pas. Hein.
On ne connaît pas. Alors, on peut passer à autre chose.
Il est né à Indianapolis un 11 novembre, vous voyez.
Ça nous aide.
Kurt Jürgens.
Non. Kurt Hitler.
Et il a créé, ça peut peut-être vous aider aussi, il a créé un personnage qui s'appelle Kilgertrott.
Est-ce que ça ressemble à son nom, Kilgertrott?
C'est un auteur de science-fiction raté, vous voyez.
Kurt Mendels.
Ah bah voilà.
300 euros qui s'en vont. Bah voilà ce que c'est que de réclamer des questions plus difficiles.
Non mais je plaisantais, Laurent. Vous n'avez pas compris.
C'est qui alors?
Au moins, comme ça, on distribue.
Est-ce qu'on a quelqu'un dans la...
Un chèque RTL? Est-ce qu'il y a une réponse dans le public?
Même le public ne sait pas.
Il n'y a pas un bras qui se lève.
Eh ben non. Eh.
Ah, tous manchots, les gars.
Je suis désolé. Hein.
C'était Kurt Vonnegut.
Oh là là.
Ah oui.
Pardon, mais ça fait plus belge Vonnegut qu'allemand. Hein, si vous nous avez induit en erreur.
Kurt Vonnegut qui rapporte 300 euros.
Vonnegut.
Tiens, restons dans les livres, mais cette fois la question n'est pas une question littéraire, c'est une question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un colophon dans le domaine littéraire?
Un colophon. C'est un rapport avec la colopathie, la coloscopie?
Pas du tout.
Dos, c'est un livre à chier, par exemple?
Pas du tout.
Ah, c'est un livre qu'on lit en colo?
Non.
Est-ce que c'est...
C'est une question, je vais vous dire.
Ouais.
Pareil, j'ai trouvé ce mot que je ne connaissais pas dans le dernier livre de Tonino Benacquista.
C'est une littérature.
J'aurais dû acheter
une littérature. On ne l'a pas lu.
Et je vais vous dire... Vous savez tous, sans savoir que ça s'appelle évidemment comme ça, ce qu'est un colophon.
Alors comment ça s'écrit, Laurent ?
C-O-L-O-P-H-O-L.
Il y a un P-H-O-L.
Le voit tout le temps, mais on ne sait pas que ça s'appelle un colophon.
Attendez, vous dites on le voit où ?
Quatrième de couverture. C'est la tranche.
C'est quoi la tranche ?
Le milieu.
Est-ce que c'est une partie ?
Là où il y a le titre.
Non, mais est-ce que c'est une partie
du livre ? Il a tellement bouffé qu'il achète ses livres par tranche.
Ah, c'est un livre qu'on écoute.
Ah non, un audiolivre, non.
Pardon Laurent, mais est-ce que c'est une particularité, c'est une partie du livre qu'on...
Non, c'est une tournure linguistique.
Ou c'est un style littéraire?
Ce n'est pas une tournure linguistique.
Est-ce que c'est la préface?
Non.
Est-ce que c'est un style livre littéraire?
Je vais même vous dire, dans n'importe quel livre...
Il y a un colophon.
Ah, ouais. Alors c'est
la table des matières?
C'est le numéro de la page?
Non.
Le nom de l'éditeur?
Ah non, est-ce que c'est...
C'est l'ours,
c'est à la fin du livre, quand on dit combien et où et qui a imprimé le livre.
Bonne réponse
de Michel Bernier.
Incroyable.
Eh oui, il y a toujours ça à la fin du livre.
Ben oui, mais je ne savais pas que c'était un colophon.
Oui, un achevé d'imprimer le... Etc.
Voilà, à tel endroit, par tel...
Eh oui.
Et il y a un ours?
Non, l'ours, c'est l'équivalent dans la presse.
Voilà, c'est ça.
Dans la
c'est
presse,
pour ça que...
voilà.
En début d'un magazine, on trouve l'ours.
Sinon, c'est le colophon.
Avec le nom du directeur.
Mais c'est vrai que ça fait un nom de bestiole, le colophon.
Oh là là.
Raphaël Nadal, il a sûrement un colophon parce que...
Non, un colophon.
Il n'arrête pas de se gratter.
Vous avez remarqué, hein?
Il n'arrête pas de se gratter le cul.
À chaque changement, il est là et il a un colophon.
Non, mais il paraît que c'est signe de prospérité quand on se gratte le cul.
Ben, ça peut coller.
Raphaël Nadal a un colophon. Et Madame Nadal a ses ours.
Non, mais un colophon, ça s'écrit C-O-L-O-P-H-O-N. Et c'est la note finale d'un manuscrit. Effectivement, on retrouve le nom de l'imprimeur et la date d'impression. Vous le saurez désormais, c'est bien quand même.
On se cultive, hein, grâce à vous, merci.
Eh ben, tiens, puisque vous êtes cultivé...
Comment s'appelle déjà l'autre?
Kurt Vonnegut.
Vonnegut. Et il a écrit Abattoir 5 ou La croisade des enfants.
Oui.
Et voilà. Maintenant, François, il va aller chez le libraire et dire je voudrais un livre de Kurt Vonnegut.
Le dernier.
Et je voudrais voir le colophon.
Montrez-moi le colophon, s'il vous plaît.
Le colophon voilà. De Carmen Guiguet.
Ah non, raconte pas.
C'est il possible. Va dire, je voudrais un livre de colophon et je voudrais voir le Carmen Guiguet.
Alors, il s'agit de retrouver un dessinateur, célèbre dessinateur. C'est un anniversaire, puisqu'il y a pile 60 ans, voyez-vous, en 1962, il dessinait sur ordre, le mot est un peu fort, mais on va dire, avec la complicité du scénariste célèbre René Goscinny, le fameux personnage que tout le monde aime, Is No Good.
Tabari.
Ah oui, Tabari. Oui.
Tabari. Ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est Tabari. Une question pour Monsieur De Maison. Je sais qu'il aime bien.
C'est juste pour lui.
Oui, ouais. Oui.
On répond pas, nous.
Oui,
c'est
puisque
pour moi.
Ça concerne le vin. Et là, on va vérifier.
Oh là là.
Mon Dieu.
L'alcoolique.
Son spectacle s'appelle Divin. Alors, voilà, j'essaie de tester ses connaissances. Quelle différence y a-t-il entre un vin qui a une capsule rouge et un vin qui a une capsule verte?
C'est tiré de la vigne bio, le vert?
Non.
C'est
non.
Sulfite et sans sulfite?
Non.
Est-ce que c'est lié au cépage?
Non.
Non, pas du tout. C'est une question de douane, non?
Non.
Est-ce
non.
que c'est lié à l'embouteillage?
C'est, j'ai plus de capsule rouge, mais une verte.
Non.
Est-ce que c'est lié au tonneau? À la matière du tonneau?
Ah non.
Est-ce que c'est lié à la qualité du vin?
Alors, la qualité du vin, non.
Est-ce que c'est lié à la couleur?
Vous pouvez très bien en avoir de très bons avec une capsule verte et de très bons avec une capsule rouge.
C'est les vins
rouge.
Italiens qui sont...
Non.
Les degrés du vin.
Est-ce que c'est du vin blanc ou du vin rouge?
Ah, je suis content si je vous apprends quelque chose.
Bah oui, vous m'apprenez.
Quand même, quand j'ai parlé du tonneau, vous avez eu un petit air de trouver que c'était pas bête.
Oh, mais quand je vous écoute, je trouve toujours que c'est pas bête.
Ça, qu'il est faux cul.
Je trouve pas que c'est intelligent, mais je trouve pas que ce soit bête.
Sur les vins jeunes, les vins primeurs.
Ceux qui sont en fût de chêne et ceux qui sont en fût en plastique. Non.
Les vins primeurs.
Non, mais monsieur de Maison, vous êtes producteur vous-même.
Mais oui, mais alors, là, je dois dire.
Ah,
là,
c'est
là,
les bouchons. Alors, les bouchons en liège.
De quelle couleur est votre capsule, Sylvain?
De quelle couleur est votre capsule? C'est un peu discret quand même.
Comme il y va. Devant tout le monde, comme ça.
Il a une capsule bicolore.
Écoutez, ma capsule, elle colle au fond et puis c'est tout.
Mais Laurent, est-ce que c'est lié, par exemple, est-ce que c'est un vin de garde ou un vin qu'il faut consommer?
Ah non, non, rien à voir avec ça.
C'est des questions de législation, d'information légale.
Gueule de bois assuré.
Non, c'est lié au producteur du vin, vous voyez.
S'il est propriétaire récoltant.
C'est-à-dire
oui. C'est-à-dire que s'il est propriétaire récoltant, c'est rouge, si c'est vert, c'est du négoce.
Manipulateur. Oui, c'est mis au château.
Alors, voilà. Je vais vous accorder
c'est
la bonne
comme
réponse.
Comme le champagne.
Même si c'est le contraire, en fait.
Oui, c'est ça. Le vert, c'est le propriétaire récoltant. C'est-à-dire que ce sont ses propres vignes et le rouge, c'est du négoce et c'est du raisin qu'il a acheté dans d'autres opérations.
Excellente réponse
c'est ça.
De François-Xavier de Maison.
Bravo.
Eh oui. Capsule verte, le producteur plante sa vigne, il la récolte et il la vinifie lui-même. Capsule rouge, le producteur a acheté le raisin à un viticulteur et il procède seulement à la vinification.
Voilà. Alors,
vous êtes capsule rouge ou capsule verte, vous?
Écoutez, ça dépend des jours. Non, j'ai les grandes cuvées, on est propriétaire récoltant. Et puis, on fait un peu de négoce sur les petites cuvées en agriculture biologique.
Donc, vous avez les deux capsules?
J'ai les deux capsules
Et avec l'huile d'olive aussi, je crois qu'il y a des choses comme
Absolument,
ça.
Absolument, avec l'huile d'olive aussi.
Mais pour les massages. Moi, j'aime bien le récoltant manipulant.
Ouais. Elle aime bien se faire manipuler.
Tu te fais masser à l'huile d'olive, toi?
Ouais, elle se fait masser à l'huile d'olive.
Je fais ce que je veux.
Après, sel, poivre, tu mets au four et tu te régales.
Elle se fait masser.
On trouve le four. C'est...
Je vous conseille pas le micro. Là. En tout cas, c'était une bonne réponse de Bravo. Monsieur de Maison.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est signé Pierre-Emmanuel Barré. Ça s'appelle « En route, mon projet pour sauver la France ». Je vous rassure, c'est un faux candidat à la présidentielle. C'est un humoriste, comédien que vous connaissez peut-être, oui. Pierre-Emmanuel Barré. Son livre est très, très drôle d'ailleurs. Et pour gagner du temps et en passer avec lui au téléphone dans un instant, je vais vous poser une question facile qui concerne, il faut le dire, un extrait de poème qu'on trouve dans son livre. Un poème qui illustre, vous savez, cette phrase que tout le monde connaît, celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison. Hein, c'est un leitmotiv qu'on utilise.
C'est pas Enrico Macias.
Non, mais c'est un peu ça. Et justement, j'aimerais que vous me disiez qui a écrit « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. » Qui a écrit ça ?
Victor Hugo ?
Victor Hugo, bravo. Évidemment. Excellente réponse de Michel Bernier. On est allé vite. Bonjour, Pierre-Emmanuel Barré.
Bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Et bravo, Michel Bernier.
Mais avec joie.
En posant une question facile, je me disais qu'on gagnerait du temps pour parler de votre livre. D'autant que ce passage est particulièrement drôle. Hein. Vous parlez effectivement de cette corrélation entre l'instruction défaillante et la délinquance. Victor Hugo l'avait pointé du doigt et vous signifiez tout de suite après ce puissant quatrain à la fois poétique et politique démontre une fois de plus que les gens qui ont un nom composé de deux prénoms, Victor Hugo, sont souvent les plus compétents dans leur domaine de prédilection, comme l'ont prouvé Thierry Henry en football, Mireille Mathieu en musique, Émile Louis en bus ou Édouard Philippe en vitiligo. Voilà, ça vous donne l'esprit du livre et j'ai trouvé ça très très drôle. Vous êtes officiellement candidat, Pierre-Emmanuel Barré ?
Alors non, je suis pas candidat parce que pour être candidat et pour diriger la France, il faut quelqu'un de déterminé, de compétent, d'exemplaire et d'honnête. Et par conséquent, je peux pas être candidat.
Mais quand même, vous faites un...
Non mais la couverture, c'est une affiche.
Ah oui,
moi j'ai reçu le livre. J'ai reçu le livre aussi. C'est une profession de foi.
Ah non mais c'est tellement drôle.
C'est génial.
Il explique tout. Il dit Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. À la lecture de cette liste prestigieuse, il apparaît pourtant que j'ai tous les atouts requis pour être président, à savoir la peau blanche et une bite.
Et ben c'est vrai. C'est vrai.
C'est pas faux, au fond.
C'est mais... pas faux. Et c'est mauvais signe pour Taubira.
Mais... mais pour très devenir chef d'État, il faut également réunir 500 signatures d'élus, puis se mettre à genoux et ouvrir grand la bouche face au lobby de l'énergie, de l'agroalimentaire, de la chasse, des banques, des laboratoires pharmaceutiques, des religions, se faire tatouer « I love Medef » sur la fesse gauche, CAC 40 forever sur la fesse droite, et utiliser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour essuyer l'espace entre les deux.
Oui,
on voit l'esprit. Non, alors écoutez, franchement, bravo. Mais vous avez un vrai programme si vous n'êtes pas candidat en tout cas.
Ah bah bien sûr, il n'y a pas que des blagues, il y a aussi des propositions sérieuses.
Ah
c'est
oui,
comme
oui.
Dans le programme de Valérie Pécresse, sauf qu'il y a des propositions sérieuses en plus.
Non mais à propos de la planète, l'avenir de la planète, de l'écologie, vous dites quand il y a un danger, les marmottes guetteuses crient et toutes les marmottes rentrent se cacher. Dans l'espèce humaine, quand il y a un danger, les scientifiques crient « on va tous mourir » et les gens continuent à prendre leur scénic pour aller chercher dans leur boîte aux lettres l'iPhone 18 commandé sur Amazon et acheminé par porte-conteneur diesel depuis la Chine. Faut-il en conclure que nous sommes plus cons que des marmottes ? Qu'est-ce que vous voudriez ajouter sur ce sujet et qui pourrait donner envie à nos auditeurs d'acheter Pierre-Emmanuel Barré en route, mon projet pour sauver la France ?
Eh bien, plein de choses. Déjà, figurez-vous que pendant le livre, j'en ai profité pour faire un bébé et qu'il a faim.
Donc vous avez besoin d'argent, c'est ça.
Oui,
d'accord,
nourrir,
ok.
Mon fils meurt de faim.
Ah oui, très bien.
14,90€ pour nourrir l'enfant.
C'est un bon argument, moi, je trouve.
Écoutez, voilà, je crois que j'espère que j'ai donné envie à tout le monde de lire votre programme.
Eh ben, j'espère aussi pour mon fils, Laurent.
Pour une France plus solidaire, évidemment. N'hésitez pas, et surtout, et effectivement, pour le petit Barré, si j'ose dire, n'hésitez pas à acheter en route le projet pour sauver la France de Pierre-Emmanuel Barré. C'est publié chez Marabout. Une question pour Monsieur Berléand, puisqu'il s'agit de sport.
C'est lui
combien,
qui va gagner 300
une question
euros
à combien.
Une question à 300 euros.
Monsieur. Donc c'est pour moi, si je ne réponds pas, je gagne.
Non. Vous ne gagnerez rien, si ce n'est évidemment la considération du public.
Et l'estime.
Et l'admiration de toutes tes congénères.
Et de la comptabilité de RTL aussi.
Oui, bien sûr.
Vous en sera gré, évidemment. Pour Marianne Léon, donc de Noisy-le-Grand, et c'est du rugby, je sais que vous aimez particulièrement le rugby, Monsieur Berléand.
Oui.
Et on nous apprend ce matin dans Le Parisien qu'Antoine Dupont, 2000 mêlée des Bleus. Ah, il n'a pas joué, hein, je crois, là. Parce
non,
qu'il
il
ne était...
jouera pas parce qu'il a la Covid.
Voilà, il a la Covid.
Beau, lui.
Encore décoré, Antoine Dupont. C'est même plus. Titre du Parisien ce matin, parce qu'il avait été désigné meilleur joueur de l'année. Hein,
ah, je croyais qu'il dansait, encore décoré.
Non.
Je ne comprenais pas.
Oh là là.
C'est Patrick Dupont, le regretté Patrick Dupont, rien à voir.
C'était moins...
oh là là là.
Antoine Dupont, le demi-mêlée des Bleus, a été désigné comme la personnalité rugbystique de l'année par la presse britannique.
Ah, wow. Ça, c'est énorme.
Et ça, c'est plus rare, parce que vous savez quelle est la rivalité entre les Anglais et les Français. C'est même la première fois qu'un Français est récompensé depuis... Depuis qui ?
Depuis Charlemagne.
Non, enfin...
Michalak ?
Albaladejo ?
Serge Blanco.
Évidemment, on cherche un autre.
Jean-Pierre Rive.
Jean-Pierre Rive.
Ah, oui.
Bonne réponse de François-Xavier de Maison.
Bravo !
Eh oui. C'est la première fois qu'un Français est récompensé depuis 1981. Et c'était effectivement Jean-Pierre Rive à l'époque.
Je regardais ça avec mon grand-père, là, les matchs commentés par Roger Coudert.
Allez, les petits.
Allez, les petits.
Allez, les petits.
Ah ouais. Ça, c'est... L'Ovalie, le respect. La bienséance et la courtoisie. Enculé. On lâche rien.
C'est bien.
Roger Coudet, j'adorais.
C'est vrai que c'est un sport zen.
C'est un sport viril, mais correct. Christophe.
Mais c'est hallucinant.
Le ballon sur le cœur. L'arrêt sur le ballon. Le troisième mi-temps. On va faire un paquito.
Arrête, les gens vont penser qu'ils sont sur RMC et que c'est Moscato, là. On a peur. Fais gaffe.
L'émission littéraire de Moscato, qu'est-ce que c'est bien. Jean-Pierre Rive, c'est casque d'or.
Oui, les casques d'or.
Il était beau.
Il y avait, Blanco, il y avait Estève, il y avait... si, il y avait Dintran.
En tout cas, vous avez piqué...
Les frères Cambera-Béro.
Ah oui, vous êtes...
Pas la même année.
Spanghero.
Pas la même année.
Ah, Spanghero.
Walter Spanghero.
C'était avant Spanghero.
C'est les lasagnes.
Ah oui, les lasagnes.
Les lasagnes.
Ah,
oui. Au cheval.
Au cheval, c'est ça.
Les lasagnes au cheval.
Ils appellent Joker.
C'est pas la même famille. Oui, c'est pas bien. Monsieur Berléand a raison.
C'est pas bien parce que...
Non, c'est comme les colophons.
Spanghero avait vendu à...
À des gens.
À des escrocs.
Et puis va leur dire en face. Hein.
Moi, je les prépare moi-même.
Mogan, viens là, Mogan. Je vais t'ouvrir.
Je voudrais vous parler de Monseigneur Gobillard.
Ah, c'est joli comme don.
Qu'est-ce que dimanche dernier, Monseigneur Gobillard a fait ?
Oh, il a touché un enfant.
Non, pas.
Il y avait une chance sur deux, quand même.
Il est allé manger chez Mollard.
Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose d'admirable ?
Il a béni quelque chose.
Alors, non, mais il a
prié. Il a dit, tu veux faire un gobillard?
C'était une messe.
Il a prié avec quelqu'un et il a offert quelque chose.
Il a prié avec quelqu'un de connu, avec une star.
Avec Hidalgo.
Avec Beyoncé.
Pour qu'elle ait des voix.
Mais ça se passait à Paris?
À Lourdes.
À Lourdes?
Non, c'est Mme Hidalgo.
Oui, bah, il faut ça. Oui.
Mme Hidalgo en meeting à Lourdes.
Mais non, elle est à la piscine, Anne Hidalgo.
Elle était en meeting à Aubervilliers.
Elle attendait un miracle.
Il n'y avait personne, c'était horrible. La salle était vide.
Elle a dit que non, hier elle est venue à RTL.
Oh,
elle a
vrai.
Dit non.
Elle a dit qu'il y avait du monde et que elle ça.
Avait... Ah, ils étaient... Il y avait du monde, ils étaient au premier rang.
Ça mais... dépendait de quel angle on regarde.
Ah, voilà. Bah oui. Non, il y avait 1500 places et il y avait visiblement
200 personnes.
200 ou 300 personnes.
Ça me rappelle mes premiers spectacles.
Ça arrive toujours.
Bah, c'est
le
ses
problème,
premières
c'est qu'elle,
hein.
C'est ses derniers.
Non, mais alors Gobillard, il a fait un truc, mais à Paris ? Alors,
Monseigneur Gobillard, oui, ça s'est passé à Paris. Ah. C'est dans le Parisien aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est dans une rue.
On l'a entendu aussi à la radio ce matin, Monseigneur Gobillard.
Il a été d'enterrement de quelqu'un ?
Ah non,
il a prié avec quelqu'un de célèbre.
Il a 53 ans, il est évêque auxiliaire de Lyon.
Il est allé au Crazy Horse.
Mais dimanche...
Première fois qu'un curé s'occupe d'une femme.
Au sexodrome ?
Non, non, il était à Paris, dimanche. Monseigneur.
Dans une église ?
Non. Pas dans une...
Dans le bois de Boulogne.
Dans un stade. Un stade.
Pas loin du bois de Boulogne.
Ah, pas loin du bois de Boulogne.
Dans un stade, oui.
Il
a béni
le match du Parc des Princes. C'était PSG contre Reims.
Alors, il n'a pas béni le match du Parc des Princes.
Il a béni le ballon.
Il a béni Mbappé.
Il a envoyé le ballon.
Non, il a...
Il a soulevé sa robe.
Il a donné le coup d'envoi. Il a béni le champ de l'arbitre.
Monsieur...
Il était au Parc des Princes.
Monseigneur Gobillard...
Il était au Parc des Princes
ou pas ? Nous écoute, il était au Parc des Princes.
Bon. C'est un rapport avec PSG, Reims.
Ah oui, avec le PSG surtout, mais pas seulement.
Il a baptisé Mbappé.
Non, non, mais Monseigneur Gobillard a...
Il a baptisé la pelouse.
Alors, il a rencontré quelqu'un.
Messi. Il a rencontré le Messi.
Il a rencontré le Messi.
C'est logique.
Oui, il y a une logique.
Il a... Ben oui, bonne réponse en plus.
Il a béni Messi.
Non, il n'a pas béni Messi.
Il a prié avec Messi.
Alors, il a prié avec
il
Messi.
Il est fan de Messi.
Ah non, il n'est pas spécialement fan de Messi, mais il a prié avec Messi.
Mais il s'est senti attiré.
Après avoir fait... Après avoir fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait avant de prier?
Il a mis un but. Il
non, pas...
Qui, Gobillard, qu'est-ce qu'il a fait avant de prier?
Il est passé dans, dans les vestiaires.
Il a offert quelque chose.
Ah, ça
il a offert sa chasuble. Ils ont échangé. Lui, il a donné le maillot et lui, il a donné sa chasuble.
C'est crampon.
Non,
c'est
non.
Crampon, c'est
lui a donné un crucifix.
Un slip, oui.
Il lui a donné un crucifix où il y a le Christ.
Il a échangé son slip. Un slip éminence.
Un slip éminence avec un col au fond.
Ah bah oui, le col de curé.
C'était un slip français.
Tout est cohérent.
Tout est lié.
Tout est cohérent dans cette émission.
Mais c'était quoi, un objet?
Non, il lui a donné quelque chose.
Alors, un maillot, vous m'avez dit un maillot? Oui, ça oui. Je suis obligé de vous dire oui à
ah bah, il est peut-être, c'est le capitaine de France des curés.
Non,
un maillot de bain, un maillot de bain.
Mais mieux que ça.
Le maillot du pape.
Non, exactement.
Ah oui.
Le pape, il a un maillot,
le maillot de corps.
Oui.
Je comprends rien.
Alors, pas le maillot du pape exactement, mais
non, de sa sœur.
Du sous-pape.
Le
maillot
du sous-pape. De sa femme.
Celui de sa femme.
Celui de son fils.
Il a donné une culotte de sa femme en échange du maillot de Messi.
Non,
c'est ça. Je comprends rien.
Non.
Ah, la petite jupe c'est, de Jésus. Les mules.
La petite jupe de Jésus.
Il a donné les mules du pape.
Mais vous dites
mais
n'importe
non,
quoi.
Non. Il lui a remis en main propre un maillot de l'Atletica Vaticana. C'est l'équipe de football du Vatican.
C'est dur de jouer en soutane.
Sauf que le maillot...
Dans les dents.
Tu te casses la gueule.
Sauf que le maillot est signé du pape, le pape François. Pourquoi? Parce que quand Messi est allé voir le Saint-Père la dernière fois, parce qu'il est allé au Vatican, Messi, il lui a offert son maillot.
Il peut rentrer partout avec un nom pareil.
Il lui a offert son maillot du PSG, Messi, aussi de l'équipe d'Argentine, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le pape François... est argentin. Et voilà pourquoi, évidemment, il y a un lien entre Messi et le pape. Il y a plein de liens entre eux.
Tout le temps.
Et Lionel Messi a pris tout ça très au sérieux, avec la bénédiction du Saint-Siège. Et ensuite, ils ont prié tous les deux.
Oh, ça devait être
voilà.
Bon.
Et ils ont gagné après, je sais pas.
Non, bah, on saura ça la prochaine fois contre Real Madrid, si ça a été efficace. Ah bah tiens, on parlait de Messi, je vais vous parler de Mbappé maintenant, si vous voulez bien. Mais je rassure ceux qui n'aiment pas le football, ça n'a rien à voir avec le foot. C'est une question pour Lydia Nursalena, qui habite Aix-en-Provence. Si vous avez lu encore Le Parisien, c'est encore dans Le Parisien que j'ai trouvé cette question, plutôt cette affirmation. C'est quelqu'un qui a dit « Ce que Mbappé fait avec ses pieds, c'est un peu ce que je fais avec mes mains ». Mais qui a fait cette déclaration?
Oh là là.
Alors, c'est un sportif?
Un frotteur.
Non, pas, non.
Est-ce que c'est un sculpteur?
Est-ce que c'est un sportif aussi?
Ah non, c'est pas
un magicien.
Un masseur kinésithérapeute.
Non, ce
un
que
magicien.
Mbappé fait avec ses pieds, c'est un peu ce que je fais avec mes mains.
Est-ce que c'est un métier artistique?
Un métier artistique, oui.
Ah, c'est un couturier?
Un couturier, non.
Un chef d'orchestre.
Un coiffeur.
Un chef d'orchestre.
Un coiffeur, ça m'étonnerait.
Un pianiste.
Un sculpteur.
Un sculpteur, non.
C'est un homme?
Pianiste,
chirurgien.
Il joue du piano, c'est vrai. Chirurgien, non.
Ah, c'est un chanteur.
Michel Polnareff.
Et c'est Michel Polnareff. Oh. Bonne réponse.
Ah oui,
il a toujours été simple.
Oui, toujours aussi modeste. Hein.
Ah oui,
j'adore.
Pour Jacob Klein, qui habite Saint-Augustin.
Vous faites Klein.
En Charente-Maritime. Oui, Klein, si vous voulez. Klein. Faites comme vous voulez. Pouvez-vous me dire comment on appelle plus simplement le polyphénylitène et ses réphtalamides?
Le colophon.
Le colophon.
C'est pas les nitrites qu'on met dans le jambon?
C'est un insecticide.
Non.
Est-ce qu'on peut redire le nom, s'il vous plaît?
Mais bien sûr, c'est un plaisir, monsieur Berléand. Le polyphénylène.
Le miel.
Téréphtalamide.
Essaye sur Siri avec ça maintenant.
Est-ce que ça se mange?
C'est le rouge de la fraise tagada.
Non, pas.
Est-ce que ça se mange?
Ça ne se mange pas.
Est-ce qu'on en a tous à la maison?
Ah, alors, peut-être.
Est-ce que c'est du vinaigre?
Qu'on met pour enlever le calcaire dans les chiottes.
Il va y en avoir beaucoup chez vous alors.
D'une femme pratique.
Est-ce que c'est pas un revêtement de poils à frire?
Ah, on se rapproche.
C'est le téflon alors.
Alors c'est pas le téflon, mais là on est tout
c'est
près.
Le téfal.
Pardon.
C'est le téfal.
Le téfal. Non, c'est une polonaise qui s'appelle Stéphanie Kwolek, qui en 1964 a inventé le.
Ah, mais je sais, le papier alu.
Non.
Ah ben alors le papier albal là, le.
Non.
Le sopalin.
Non. Non, c'est un polymère. polymère thermoplastique, comme vous l'aurez compris. Oui, oui.
Ah, oui. Ah, c'est les moules en plastique, là, comment
non,
ça
non,
les...
Non, c'est un nom bien précis.
C'est un film, c'est le film Fraîcheur.
C'est devenu...
J'ai essayé, mais c'était pas ça. Le halbal, là, ça. Mais non, c'est pas
vous
ça.
Venez de tourner dans un film Fraîcheur.
Ah oui.
Oui, je ne fais que des films Fraîcheur.
Mais alors, attendez.
Est-ce qu'on met
un aliment dedans?
Non, vous avez bien compris que c'est une fibre synthétique.
Des boîtes d'œufs.
Un torchon.
D'ailleurs, même Stéphanie Gwolek, qui est une chimiste d'origine polonaise, mais qui est nationalisée américaine, elle a inventé ça un peu par hasard, vous voyez.
La tarte tatin.
Elle travaillait pour la société Dupont de Nemours. Et,
ah ben voilà.
Et alors, comme ça, accidentellement, inventé cette fibre synthétique.
La toile cirée.
Non.
Pour pas se brûler les mains là.
Non.
Alors, attendez, est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans nos cuisines? Pas forcément.
Non, vous pouvez avoir ça sur vous aussi, d'ailleurs.
Dans mon slip.
Dans votre slip.
Dans ton slip.
Ça n'est plus utile, Bernard.
Ah, c'est un truc qui fait grossir.
Ah, c'est le préservatif.
Non.
C'est du nylon?
Non.
Est-ce que c'est joli?
Oh, c'est pas le but.
Ça sert à rien, donc.
Ah, si.
Ça fait transpirer.
C'est les soupules?
Non, les soupules, non.
Ah, c'est les ceintures qu'on se met autour de la taille pour maigrir?
Ah non.
Les moufles.
Un antitranspirant.
Non. Les moufles, non. Ça s'utilise en téléphonie.
Je comprends rien, votre truc.
En matériel sportif, en domaine aéronautique.
Un iPhone.
En voile. Et aussi...
Ah, des cristaux liquides.
Non.
C'est comme
les combinaisons de plongée.
Ah non, mieux que ça.
Le chocolat aux noisettes.
Ah non.
Il a faim, ça y est, il dit n'importe quoi, il a faim.
C'est antidérapant.
Non, mais là, on a tout dit, là.
Non, c'est antidérapant.
On ne comprend pas ce que vous voulez.
C'est pas la mode de corps.
C'est de la fibre d'aramide jaune dorée, si vous préférez.
Ah, c'est la couleur.
De la moutarde.
C'est toujours jaune.
Les sets de table.
C'est un vernis.
Non. Est-ce que c'est toujours jaune?
Ah, mais je suis sûr.
C'est un colorant.
Non, vous connaissez le polyphénylène et téréphthalamide.
Est-ce que c'est toujours jaune?
Ah, bah non. Jaune, c'est à l'origine, vous voyez. Oh,
la paire de lunettes de Maître Gims.
Non.
On en a toutes les couleurs.
Ah, bah il y en a. Non, c'est pas toutes les couleurs. Mais
oh là là.
Il vous reste 30 secondes. Hein.
Oh, c'est
on peut ranger quelque chose à l'intérieur?
Mme Gwolek, Stéphanie Gwolek, quand elle a travaillé pour la société du Pont de Nemours.
Il fabriquait quoi du Pont de Nemours?
Elle cherchait pas.
Ah, des assiettes?
Non.
Des couverts.
A priori, elle travaillait pour les pneus de voiture à ce moment-là, vous voyez.
Ah, les semelles de chaussures.
Et puis finalement, par accident, elle a trouvé quelque chose.
Des tongs!
Du caoutchouc.
Du caoutchouc pour pas déraper.
Pas
quoi.
Du caoutchouc.
Ça coûte cher, ça coûte cher.
Ah, c'est pas donné.
Et ça fond pas quand il fait chaud?
Ah, ça non, ça c'est sûr que
c'est solide. Un plastique particulier.
C'est fantastique.
Non. Des briquets?
Non.
Ah, le Pyrex.
Non plus, pas le Pyrex. Vous n'êtes pas loin, vous brûlez, mais...
Mais oui, c'est ça.
Mais... 300 euros, on vient de perdre 300 euros.
Ah, je crois qu'il y a des gens qui savent dans le public.
Monsieur Jacob Klein ou Klein vient de toucher un chèque RTL et il y a des mains qui se lèvent
là,
dans le public.
Là, il y a monsieur devant. Ah ben oui, il sera plus simple. Alors, bonjour, quel est votre prénom?
Thierry.
Et alors Thierry, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie?
Je suis en grande vacances.
Ah, très bien, vous êtes fonctionnaire et vous venez d'où?
De Paris.
Et quelle est votre réponse?
Le Kevlar.
Ah bah excellent.
Oui, bravo.
Bah oui.
Bravo, monsieur. Vous gagnez 100 euros. Le Kevlar utilisé par les gilets pare-balles, évidemment.
On en porte souvent des gilets pare-balles.
Je l'avais dit, le Kevlar.
Qu'est-ce que vous dites, monsieur Berléand?
Oui, je l'avais dit, mais personne n'a entendu.
Si on la réécoute dans 2 ans, ça nous fera un truc.
Oui, monsieur Berléand.
Il veut la vidéo.
Dans 2 ans, certainement qu'il reposera la question.
Oui, sûrement.
Puisqu'il la repose tous les 2 ans.
Et là, on répondra à ta place.
Oh bah évidemment le Kevlar.
Le Kevlar, c'est une excellente réponse qui vient du public en tout cas. Bravo.
Qui est qui? Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Ah, on est un peu en retard, Bertrand. Alors je vais aller vite. Vous habitez Laval. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Oui, bonjour. Oui, bah je suis technicien.
Bonjour quand même.
Bonjour,
vous avez raison.
Bonjour Bertrand.
Technicien dans quel domaine, Bertrand?
Dans la télécommunication.
Parfait. Vous utilisez du Kevlar de temps en temps?
Bien sûr.
Oui, sur mes harnais.
Eh bien, vous voyez, voilà.
Sur vos harnais, vous partout, avez un harnais.
Partout, il y a du Kevlar. Ouais, vous allez en tout cas choisir parmi mes grosses têtes celle dont vous pensez qu'elle a le mieux lu la presse, révisé les journaux, écouté les infos, savoir qui est qui fait quoi, à votre avis.
Moi, je vais miser sur François Berléand.
Eh oui, il est doué, Berléand.
Il est bon, Bébert, il est bon.
J'adore le regard de François.
Eh oh, il y a deux maisons, hein.
Et vous allez peut-être gagner, je vous le dis, un week-end pour deux dans un hôtel Cozy Places. 160 hôtels Cozy Places en France, charme, caractère, 160 lieux. Vous en choisirez un sur cozyplaces.com. Se sentir comme chez soi et découvrir les autres.
J'espère que c'est mieux que chez soi, parce que sinon ça sert à rien d'y aller.
Mais oui, mais découvrir les autres, c'est important. Romantisme, nature, bien-être, culture ou shopping.
Des chambres avec plein de gens dedans.
Les hôteliers de Cozy Places feront de votre séjour une expérience inoubliable. Cozyplaces.com pour choisir votre destination, Bertrand, à condition d'avoir fait le bon choix avec François Berléand. Le mieux, c'est qu'on commence tout de suite par lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand ?
Oh mon Dieu !
Monsieur Berléand.
Mais quelle pression énorme.
Qui est madame Elisabeth Borne ?
Bah, c'est une ministre.
Oui, mais de quoi ?
Le travail.
Ministre du travail, c'est gagné. Bravo. Vous voyez, faut y croire, c'est comme le Kevlar, faut y croire. François-Xavier de Maison, qui est Romain Gros.
Romain Gros, c'est le gros député de Perpignan qui s'est fait agresser.
Exact.
Ah, mais comment vous savez ça ?
Je lis la presse.
Eh bien, bravo, oui. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Marco Verratti ?
C'est un Italien.
Oui, mais encore.
Marco Verratti. Il fait des canapés.
Non.
C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a marqué deux buts contre Reims.
Marco Verratti. Avec Paul Perron et Sofa.
Vous êtes éliminé.
Et voilà.
Authentique qualité.
Michel Bernier, qui était Jean-Claude Mézières.
Ah, je l'ai toujours aimé, lui.
Mais il était, et puis il finit.
Il était plus, il est plus.
Il vient de mourir à l'âge de 83 ans, je crois.
Ah oui, dites donc.
C'était le vrai nom de Kurt Vonnegut.
Alors... comment vous dites, comment
Jean-Claude Mézières.
Ah, c'est pas l'aventurier qui est tombé dans l'eau ?
Ah non. C'était le dessinateur de Valérian.
Eh oui.
Vous êtes éliminé.
Valérian et Laureline.
Michel Bernier. C'est à vous, monsieur Beaugrand.
Oui. Lui, il doit savoir.
Ouais, ça dépend.
Qui est Riopi.
Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est... Riopi. Riopi est un personnage pour enfants, très mignon, tout rond et qui rebondit. Voilà, c'est Riopi.
Mais non, c'est un pianiste français de 38 ans qui est pour la deuxième semaine d'affilée l'artiste classique le plus écouté aux États-Unis.
Je ne connais pas du tout cette personne.
Un Français qui cartonne outre-Atlantique. Vous êtes éliminé, monsieur Beaugrand. Bernard Mabille.
Oui.
Pouvez-vous me dire, Bernard, qui est Günther Bresnik ?
C'est un pote de Kurt Vonnegut.
Ah oui,
c'est
le mec qui a écrit. C'est un Allemand qui a écrit l'abattoir.
Ou la mais lui, la, c'est l'abattoir il est numéro 4.
Il est autrichien, Günther Bresnik.
Oui, mais c'est pareil.
C'est le frère de Riopi.
Non. C'est l'entraîneur de Gaël, mon fils.
Ben dis donc.
C'est grâce à lui.
Ça a l'air pas mal comme entraîneur. Hein, parce
comme
que...
Oui, c'est grâce à lui
il est
que mon
bon,
fils
là.
Est en quart de finale.
À la Schlag.
Alors... Attention, il nous reste un duel.
Oh là,
oh là là.
François-Xavier de Maison contre François Berléand.
Oui, mais nous sommes très amis.
Bertrand.
C'est vrai, on est très amis. Et puis moi, j'ai... Voilà.
Vous avez misé sur François Berléand. Et je vais demander à François Berléand, qui est Cindy Sander.
Oh. Mais pourquoi ça tombe pas sur François
François.
Alors là, oui.
François.
Oui.
Elle a rendu un hommage vibrant.
Mais oui.
Elle a fait un hommage vibrant.
Non,
elle a rendu.
Elle a rendu.
Elle a refusé en plus.
Et on va chanter après. Hein.
Oui, ah bah ouais.
Ah oui. C'est une chanteuse américaine, mais...
Mais non, moi, même moi, je sais.
Eh oui, mais même toi, mais moi, je ne sais
je
pas.
Même le monsieur au téléphone, il sait.
Eh oui, mais je suis désolé, mais je vous avais dit de Maison.
C'est vrai, il l'avait dit.
Cindy Sander rend un hommage vibrant à Thierry Mugler. C'est la chanteuse.
Papillon de lumière sous les projecteurs. Papillon de lumière revit dans nos cœurs. Dans nos cœurs.
Voilà pourquoi je ne savais pas, évidemment.
Bertrand, je suis désolé.
Oh, pardon, Bertrand.
Avouez que j'ai tout fait pour vous aider, Bertrand, en plus.
Ah, hein. Oui. Et en même temps, j'ai dit que c'était une chanteuse.
Oui, d'accord, mais enfin bon.
Vous avez dit américaine avec Charleville-Mézières.
Ce sera une montre RTL pour Bertrand, car oui, Cindy Sander est une chanteuse française, découverte dans Nouvelle Star. Elle a eu un peu de mal au départ parce qu'on se moquait d'elle.
Ah, c'est la...
mais on s'en moque plus.
Mais Thierry Mugler, en tout cas, l'a aidé, il l'a relooké.
Il en a fait la meneuse de revue d'un spectacle qui a notamment joué en Allemagne pendant des années.
Exactement. Voilà. Ah, bah lui, il est incollable, Beaugrand, sur.
Sur les chansons de merde,
oui, vraiment.
Une montre pour vous, Bertrand. On se retrouve après les infos de 17h.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Christophe Beaugrand, François Berléand, François-Xavier de Maison, Valérie Mérès, Bernard Mabille, Michel Bernier. Vos grosses têtes jusqu'à 18h. Et la question qui vient est une question à la portée de tous. Pour Madame Bernadette Sonnet, qui habite Rueil-Malmaison. Pouvez-vous retrouver dans votre mémoire le nom du personnage qui prononçait cette célèbre phrase « On a toujours besoin d'un petit pois chez soi
» Bonduel ?
Alors ça c'est...
Le géant vert peut-être.
Ouais. Alors c'est pas un personnage Bonduel.
Mais le géant vert.
Le géant vert, non, non, ça date quand même des années 60.
Est-ce que c'est un personnage dans une publicité ?
Oui, c'était dans une publicité. Oui. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi.
Et c'était quelqu'un de connu, alors de très connu.
Non, un personnage, je vous ai dit.
C'était un dessin animé ?
Alors dessin animé, pas tout à fait, mais c'était...
Des pâtes à modeler ?
C'était animé, oui.
Martine à la cuisine ?
Non, arrêtez, ça c'est sexy.
Vous dites quelle année, Pollux, Laurent ?
Pollux, non.
Est-ce que c'est un animal poilu ou
C'était en 1964 qu'on a vu.
Ah, c'est Saturnin, le canard, peut-être.
Non, Saturnin, non.
Dans le manège enchanté, c'était ?
Non, non. Alors, évidemment, c'était une allusion au célèbre vers de La Fontaine. On a souvent besoin d'un
plus petit que soi.
Oui. Mais là, d'un seul coup, à la télévision, on a vu débarquer un personnage qui a fait un carton.
Pardon, c'est un personnage qui existait avant.
Non, qu'on a créé pour la publicité.
C'était un personnage déguisé en carotte ?
Ah non, pas du tout.
C'est un lapin.
Kiki? Un lapin, non, non.
Kiki, c'est pas Kiki ou Chouchou, un genre.
Ah, Kiki et Chouchou, non.
Est-ce que c'était un être humain ou c'était un animal ?
Plutôt un animal.
Un hérisson.
Un hérisson.
Genre Colargol, l'ours qui rit en.
Alors, c'était pas Colargol.
Andodiel.
Chapi chapeau.
Et en tout cas, il y a même eu des. Alors, je vais vous dire, le personnage a tellement marché dans la publicité qu'après, il y a eu des disques. Il a sorti des disques.
Si on trouve l'animal. Ah, c'est pas le pingouin, là.
Nestor, le pingouin.
Un pingouin, non.
Est-ce que si on trouve l'animal.
C'était un oiseau.
Si on trouve l'animal,
Chantal Goya, non.
Si on trouve l'animal, ça va nous aider.
Alors oui.
C'était un oiseau.
Un oiseau, oui, un petit oiseau, oui, oui.
On peut... Titi,
un
volatile en tout cas.
Une poule. Un coq.
Pas une poule.
Un coq. Un canard.
Une pintade.
Un poussin.
Un poussin.
Calimero.
Calimero.
Le poussin Piou.
Comment vous dites ?
Piou,
petit poussin, petit poussin, piou, piou, petit malin, petit malin.
C'est pas ça ?
C'est ça ou pas ?
Tu sais qu'à l'Eurovision, vous allez cartonner.
C'est formidable.
Là, on a tout donné.
On a une belle culture musicale.
Pissou, pissou.
C'est un produit dérivé parce que... Redites-moi le nom de votre poussin.
Piou, piou.
Piou, piou.
C'est pas piou, piou.
Pilou, pilou, pilou,
pilou. Pissou,
pissou. Sidi Sander.
Non, il a une question de retard. Il va dire Kevlar dans 5 minutes.
Piou, piou.
Comment vous dites ?
Piou, piou.
Piou, pilon, pilon.
Prou, prou, prou.
Alors, plou. Plou, plou,
plou,
plou, ploum, ploum, prout, 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 prout,
poum,
prout, c'est le col au fond.
Pom, pom.
Alors, piou,
pipit, prout, prout,
pompon, pompon, pipi.
Ça ressemble à piou.
Il y a du ou
dedans,
Et après, on dira que cette émission n'est pas écoutable par les enfants.
J'imagine les gens qui viennent de rentrer dans leur voiture et qui allument la radio. Ils doivent se dire qu'ils font un truc bizarre quand même.
Petit piou, piou.
Le piou.
Pou-piou,
mini-piou,
mini-piou,
mini-piou, chouchou-piou.
Bon, je vais vous l'accorder, parce que j'en ai marre.
Coucou-piou,
coucou.
Pi-piou,
pi-piou,
pi-piou, pi-piou.
On a tout donné quand même. Oh,
pipiou.
Vous m'avez tout dit sauf pipiou, mais c'est pipiou.
Pipiou.
Et on s'en souvient bien.
On a la voix de pipiou, évidemment.
Comme les petits pois. On a toujours le feu vert pour manger les petits pois.
Il
avait
pas
l'air
fut de suite.
J'aime ça, moi, les petits pois. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi.
Et voilà, c'est
Pipiou.
Il y a un carton.
On a toujours besoin d'un petit pois chez soi.
Et c'est pour ça qu'on est.
On a besoin d'un petit pois chez soi.
J'adore les petits pois, et toi ?
On est vraiment une génération de cons.
Et alors, il a eu tellement tellement de succès, Pipiou, avec ce petit poids. C'était pas une marque.
Il était mignon.
Parce que ça, c'est les premières publicités. À l'époque, on faisait pas des publicités pour les marques. On faisait des publicités pour les produits. C'était n'importe quel petit poids, vous voyez. C'était la Sopexa, Société pour la promotion de l'exportation des produits agricoles et alimentaires. C'était offert une réclame. À l'époque, on disait une réclame avec ce petit poussin vert qui s'appelait Pipiou.
Ah, il était vert.
Oui.
C'est
oui.
rare. Hein.
Mais le publicitaire Eric Lipman de chez Publicis qui a inventé cette publicité on a toujours besoin de petits pois chez soi, c'est le même qui a inventé du pain, du vin et du boursin. Vous voyez le gars quand même.
Il avait le sens de la formule. Hein.
Ah, ouais.
Et du bon, du beau, du bonnet.
Et Pipiou a eu tellement de succès que il y a eu un disque chez Philips qui est sorti, les chansons de Pipiou.
Ah, ouais, carrément.
C'est dommage qu'on l'a pas gardé.
Vous l'avez la chanson
Pipiou Olympique, une grand-mère pour les petits pois, Pipiou fait cuicui.
Une grand-mère pour les petits pois. Qu'est-ce que c'est que ça?
J'aurais pas aimé qu'on m'appelle.
Mais moi j'adore les petits pois. Alors voilà pourquoi.
Ah, c'était parti de là.
Ah, c'est pour
tout ça,
alors.
Pour ça.
Non, mais je me souviens dans les années 60 de Pipiou et je crois même que j'ai eu un Pipiou en peluche.
Ah
oh,
oui.
Oh là là, mais je croyais que vous n'aviez
possible.
Pas d'argent.
Non,
pas
avec la boîte de petits
c'était
pois.
C'était offert.
Bah oui, tu ouvrais ta boîte de petits pois, t'avais un pouce à mort.
Non.
C'est pour ça qu'il était vert d'ailleurs.
C'était.
Il a pas
eu. Tu jouais avec.
Au bout de 500 boîtes de petits pois.
T'as reçu une peluche.
T'avais un pipiou.
C'est mignon.
Au bout de 500 boîtes de petits pois.
Oh, je vous vois avec votre petite peluche.
Et il mangeait des petits pois tous les jours en espérant avoir un jour sa peluche. C'est trop beau.
C'est trop mignon.
Ah, il est mignon, hein. C'est beau d'entrer dans votre
Il y avait des gros problèmes de transit, du coup.
Ben oui.
Je suis surpris, monsieur Berléand, que vous n'ayez pas connu Pipiou.
Non, parce que lui, il a connu les flageolets.
C'était 64. Moi, j'avais 12 ans, donc c'était fini.
Chez les Berléands, ils étaient plutôt flageolets.
Il a connu Prout-Prout.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Nous voilà partis pour Bazoches sur le Betz dans le Loiret. Est-ce que je prononce bien le nom de votre village, Nathalie? Bonjour.
Oui, bonjour Laurent. Oui, c'est ça. C'est bien comme ça qu'on le prononce. Oui.
Et on les appelle comment les habitants de Bazoches sur le Betz?
Eh bien, les Bazochois.
Eh bien, vous êtes une Bazochoise alors,
voilà,
Nathalie.
Voilà, tout à fait.
Une Bazochoise qui fait quoi dans la vie?
Alors, je suis jeune retraitée de la fonction publique. Et adjoint au maire.
Eh ben, dis donc.
Une femme engagée, c'est bien.
Il y a du boulot à la mairie de Bazoches sur le Bess.
Oui,
ah,
bah,
il y a les signatures.
Boulot,
hein.
Je suis notre responsable de la voirie, du fleurissement, de l'assainissement.
Oh là
voilà.
Là.
Oui. Non, vous êtes débordée, Nathalie.
Oui, oui, c'est très bien.
Il a déjà donné sa signature, le maire, à un candidat?
Ah, je ne l'ai pas demandé.
Ah, il faut lui demander. Hein.
D'accord.
Et vous pouvez donner une signature, madame?
Ah non, il faut être
élu. Non, c'est juste le maire.
Elle est adjointe, Nathalie. Adjointe à la retraite. Enfin, pas à la retraite de
son retraite poste. De la police, voilà.
De la police. Ah bah, très bien. Rompez, Nathalie. Voici
affirmatif.
Voici les informations que vont vous donner mes camarades pour partir à la neige. Intersport et Vacances Bleues vous proposent un joli séjour à la Plagne. Une semaine de vacances en demi-pension pour deux. T'as un bel hôtel, un hôtel qui s'appelle l'hôtel Belle Plagne, au pied des pistes du domaine skiable Paradiski. Une vue panoramique face au sommet de la Plagne. Chambre à décoration raffinée, restaurant panoramique, bain à remous et tout l'équipement offert par Intersport. Pour une semaine, évidemment, vacancesbleues.fr. Vous en saurez plus sur votre séjour. Super. Un joli séjour d'une semaine, pour deux, hein, je le rappelle, Nathalie.
Oui. Vous irez avec une semaine, hein, simplement.
Vous irez avec Monsieur Doriné.
Oui, tout à fait.
Parfait. Alors, le couple Doriné ira-t-il à la neige?
Ah, voilà une belle énigme.
Alors, c'est une semaine pour deux ou deux semaines pour un?
Nous le saurons dans un instant si Madame Doriné, Nathalie, évidemment, repère la bonne info parmi les fake news glissées parmi mes camarades. On commence par Bernard Mabie.
Gilbert Collard, qui a rejoint Éric Zemmour, a menacé Marine Le Pen si elle continue à le critiquer. Il dévoilera des dossiers secrets. On va enfin savoir qui a dénoncé Anne Frank.
Christophe Beaugrand.
Le français Gaël Monfils, ayant atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic, impressionné par les effets secondaires, a décidé finalement de se faire vacciner.
Michel Bernier.
Le cannibale des Pyrénées s'est rendu à la police après avoir agressé une septuagénaire. Il a déclaré « La viande est plus tendre à l'hôpital psychiatrique
!» Valérie Mérès.
Pour lutter contre le Covid, la Chine a décidé d'avoir recours aux tests anaux pendant les Jeux Olympiques.
François-Xavier de Maison.
Emmanuel Macron en déplacement dans la Creuse a envoyé hier un message de soutien à Jean-Michel Blanquer. Franchement, t'avais bien fait de choisir Ibiza.
Et François Berléand pour terminer.
Anne Hidalgo était présente à RTL hier. Elle est venue et repartie en voiture parce que même avec un vélo électrique, elle n'arrive pas à remonter une pente à 3%. Bonne chance, madame. Ouais.
Il y a une vraie info parmi tout ça. C'est ça le pire, Nathalie.
Oui. Ouais.
Laquelle ?
Bon, faut faire par élimination, à mon avis.
Oui, oui je pense, oui. Donc, je pense éliminer Valérie Mérès.
Alors, Valérie Mérès, vous éliminez les tests anneaux aux Jeux Olympiques.
Michel Bernier.
Michel Bernier, le cannibale des Pyrénées qui a dit que la viande était plus tendre à l'hôpital.
Christophe Beaugrand, je me rappelle
moi
plus.
Moi, c'était Gaël, mon fils.
Alors,
Novak Djokovic.
Djokovic qui regrettait, vu les effets secondaires, de ne pas s'être fait vacciner.
Non.
Non plus. On vire Beaugrand.
Et puis le...
Ibiza.
François Berléand, je me rappelle plus.
Alors, Berléand, c'est Anne Hidalgo qui n'arrive pas à remonter une pente
à 3%. Non, non, alors j'élimine Berléand. Ouais. Beaugrand, je ne sais plus, et le premier...
Alors, il reste Bernard Mabille avec... on va savoir, grâce à Gilbert Collard, qui a dénoncé Anne Frank.
Non, non. Alors,
non plus. Non, oui.
Bah, vous éliminez tout le monde, finalement.
Non,
vous...
du coup, je ne sais plus.
Il vous reste deux maisons. Macron qui aurait envoyé à Blanquer un télégramme. Franchement, t'avais bien fait...
Non, ça, j'élimine.
Non.
Il n'y a plus personne.
Alors là, on a plus personne en magasin.
Vous avez éliminé tout le monde, madame. Désolé.
Vous avez éliminé les anneaux.
Donc, il va falloir que vous reveniez sur quelqu'un.
Il va falloir changer d'avis.
Au revoir, madame. Christophe Beaugrand, je sais pas.
Alors Djokovic qui dit finalement j'aurais dû me faire vacciner.
Parce qu'il aurait dit ça.
Il aurait dit ça.
Oui.
Oui. Bah non.
Ah non, je suis désolé.
Aïe 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 aïe. C'est bien Valérie Mérès. Et oui, on dit bien.
Mais je pensais que c'était elle quand même.
Ah bah, ça fallait le dire,
mais j'étais pas sûre. Je pensais que c'était un peu.
Vous
trop.
Appelleriez pas Berléand, vous, mais dites ouais. Donc.
Vous aimez le Kevlar.
Moi aussi avec le Kevlar.
Les Chinois, ils feraient
j'ai
n'importe.
Vraiment hésité avec vous parce que je pense.
Les Chinois, ils font des tests anneaux.
On dit bien test anal et des tests anneaux. Ça, c'est français, c'est comme ça qu'on dit.
C'est dommage, c'est ça. Je voulais. C'est pour ça.
Et c'est vrai que la Chine prépare les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver qui vont démarrer là dans quelques jours. Mmh. Et avant les Jeux Olympiques, la Chine a dit que les tests anneaux étaient plus efficaces pour détecter les formes asymptomatiques.
C'est bête, vous l'avez dans le cul.
Mais oui, parce que ma fille l'avait lu en plus. Oh là là.
Comment ça se passe un test anal, sans vouloir rentrer dans le détail?
Je sais
eh
pas.
Eh ben, on te met le coton-tige dans le cul.
On le met d'abord dans le cul et ensuite dans le nez.
T'imagines, tu gardes les cahutes blanches devant les pharmacies pour te faire tester comme ça. Dans la rue.
La Gay Pride tous les jours.
Pour une
c'est
fois,
déjà en application à la fustinière.
Oh, jamais eu autant de monde.
Ah, il y a des pharmacies qui vont afficher complet.
En tout cas, c'était bien les tests anneaux. Alors, une question de bricolage pour Evelyne Garcin. Si vous achetez un marteau bourgeois, de quoi s'agit-il?
De tapissier.
Qu'est-ce que vous appelez un marteau de tapissier?
Pour les petits clous tapissiers, c'est un marteau très fin pour les petits clous tapissiers.
Non.
Ah, c'est un vrai marteau?
Ah, c'est un vrai marteau, oui.
Ah, c'est pour le cuir?
Non, c'est pas pour le cuir, le marteau bourgeois.
C'est pour une activité très particulière.
Oui. Vous
pouvez pas clouer un truc, un...
Pour les pianos, pour le piano?
Ah, pour le piano, non.
C'est un marteau.
Ça ne s'utilise pas en bricolage.
Ah si, c'est en bricolage.
Ah, c'est du bricolage.
Mais si vous allez chez le roi Mam, comment ça?
Le roi Merlin. Ou Bricorama.
Bricorama.
Ou BHV.
Ou Castorama.
Castorama, BHV.
À la FNAC.
Monsieur Bricolage.
C'est des actions à la FNAC, alors, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on dise le roi Merlin, tout ça et compagnie. Alors, la FNAC.
À la FNAC, si vous voulez aussi.
Est-ce que ce n'est pas des marteaux qui ont dedans?
C'est-à-dire
c'est coupé au milieu, non?
Ah oui.
Ça permet d'arracher le clou.
Excellente réponse de la bricoleuse.
Bravo.
Quel talent.
C'est pas qu'elle est bricoleuse, c'est qu'elle passe son temps au BHV.
Voilà, c'est là qu'on drague le mieux.
Et oui, c'est pas une légende, c'est vrai.
Il est fendu, le marteau bourgeois, effectivement.
Oui, pour enlever le clou.
Exactement. D'un côté, vous tapez sur le clou, de l'autre, vous l'arrachez le clou. Voilà.
Mais à la FNAC aussi, on fait de belles rencontres.
À la FNAC. Non, parce que en fait, le truc, c'est de passer pour une idiote au rayon.
Non, mais tu dragues vraiment au BHV, non, au bricolage.
Dans le temps, quand j'étais encore jeune et fraîche.
Mais maintenant, tu peux aller à la FNAC.
Voilà, je peux aller, parce que je suis vieille et moche.
Non, mais parce qu'il y a des vieux, des jeunes.
Ah oui.
C'est un lieu de culture.
Ah, tu fais semblant de lire. Oui, mais tu fais semblant de lire.
Tu fais semblant de lire. Est-ce que vous avez vu ce colophon?
Oui.
Non, mais
généralement,
ce qui marche mieux, c'est d'avoir l'air idiote pour nous, les filles. Enfin, qu'est-ce que c'est un colophon?
Ben alors, elle arrête pas de baiser, là, Valérie.
Là, tu tombes sur un mec qui t'explique.
Valérie, qu'est-ce qu'elle ramasse?
Valérie, elle arrête pas de baiser. Valérie, c'est.
Alors attention, une question cinéma justement et littérature, les deux associés. Et là, avec quand même le plateau qu'on a aujourd'hui entre Monsieur Berléand, Monsieur Demaison, Mme Mérès, Mme Bernier, vous aussi peut-être, Bernard et Christophe, c'est moins votre sujet tout de même.
Bien sûr. Non, mais il sait tout, Bernard.
Il s'agit de retrouver le nom d'un personnage. Un personnage de justicier créé par un romancier qui s'appelait Arthur Bernède, qui donc a fait paraître les aventures de ce justicier d'abord...
Zorro.
En 1917 dans Le Petit Parisien.
Ah, c'est un justicier français. Bibi
Figotin.
Et puis c'est devenu un film ensuite.
Donc un justicier français.
Réalisé par Louis Feuillade.
Fantomas.
Arsène Lupin.
Fantomas, non. Alors justement, c'était pour répondre à Fantomas. C'était une version positive de Fantomas, voyez-vous.
Hibernatus. Fantomette.
Non. Un mystérieux vengeur vêtu d'un manteau noir.
Belphégo.
Non. Qui s'acharnait à provoquer
Mandrake.
La chute... Mandrake, non.
C'est le magicien, Mandrake.
Non, qui s'acharnait à provoquer la chute d'un banquier corrompu nommé Favreau.
Ah, bah c'est Philippe Poutou.
Non. Alors, maître du déguisement...
Tirer la fronde.
Non.
Mais non.
Il avait une base souterraine sous un château en ruine.
C'est comme
Batman.
C'est un Batman du pauvre.
Un équipement ultra moderne. Alors il était accompagné d'un chien qui s'appelait Vidocq, en référence évidemment au fameux Vidocq.
Alors il y a eu une bande dessinée ou des dessins
animés? Non, je vous dis, d'abord ça a été un feuilleton dans la presse, dans les années 1917-1918. Puis ensuite, il y a eu plusieurs films adaptés par Louis Feuillade.
Plusieurs films. Oui. D'accord.
Et donc,
un personnage qu'on connaît encore.
C'était des films muets à l'époque.
Ah, bah oui, c'est ça.
Il était masqué. Hein.
Mais
il n'y a jamais eu d'adaptation plus récente.
Il y a eu une adaptation par Georges Franju en 1963.
Feuillade comme le champagne. J'ai des actions.
Que vous achetez à la FNAC.
C'est Feuillade.
Le chevalier masqué.
Ah non. Non,
c'est un seul mot. C'est un seul nom.
Un seul nom, oui.
Un seul nom.
Ouais.
C'était un peu genre malin, le nom, malin, il veut dire un peu ça quand même.
Un mystérieux vengeur avec un manteau noir.
Belphégor,
non.
Le renard.
Non.
Est-ce que c'est un nom ou ça désigne quelque chose?
Il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5 films, vous voyez.
Ah ouais, 5 films de Feuillade.
Enfin, en 1917, on était
Ah bah oui, mais plus celui de Franju en 63.
Ce qui fait...
Et ça a marqué l'histoire du cinéma français, vous voyez.
Est-ce qu'on dit, on peut dire de quelqu'un, tu es un genre de ce personnage-là?
C'est-à-dire que la racine du personnage est tout de même effectivement une racine un peu, comment dire, péjorative, on va dire. Enfin, péjorative, ça dépend.
Oh là là, c'est pas clair, votre indice. Oh, excusez-nous,
on peut trouver à la FNAC des DVD de...
en buvant...
Tu veux dire à quel rayon de la FNAC?
Alors, il tombe amoureux de Jacqueline, la fille de son ennemi, à un moment donné.
Ah, ça, c'est un classique.
Ah, mais oui.
Ah, les prénoms font rêver.
Ah, parce que, en réalité, son vrai nom, c'est Jacques de Trémeuse. Un homme dont la famille a été ruinée par Favreau, vous voyez.
Ah, le banquier.
Ah, mais ça ressemble à Batman.
Ah, oui. Et il va... C'est un peu aussi le comte de Monte Cristo, vous voyez. Il revient et va se venger.
Oui.
Vous voyez, c'est un peu de ça aussi.
Oui, mais on ne peut pas trouver, là.
Mais c'est pas Monte Cristo.
Mais c'est pas Monte Cristo.
C'est pas du tout un nom qu'on utilise aujourd'hui, une expression.
Non,
il n'y a pas de rue.
Non.
Il n'y a pas de rue.
Il n'y a pas d'avenue non plus dans le 16e.
Mais par exemple, dans.
Genre Vaillant ou du genre.
Non, mais par exemple, dans le film.
Intrépide.
Non, dans le film de Michel Audiard, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. André Pousse se fait surnommer ainsi pendant la traque.
Est-ce que c'est un mot qui existe ou c'est un nom?
Non, c'est un nom.
Est-ce que vous aviez la peluche quand vous étiez petit là?
Non. Il fallait manger des carottes.
Non, 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 non.
C'est un nom d'animal, non ?
Non, 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 non.
On trouvera jamais.
Incorrigible, ça doit être un truc comme
non,
ça.
Non, non, c'est en deux syllabes.
Vous avez la première lettre.
Et je suis sûr que vous connaissez, hein, parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma français.
Est-ce que vous pourriez me donner la première lettre ?
C'est un des premiers personnages de justicier du cinéma français. Non, je ne donnerai pas la première lettre. Ce serait trop facile.
La deuxième,
facile.
Alors ?
Ah, la deuxième non plus.
La troisième.
Ah,
ouais,
Toutes les lettres.
Quatrième.
Non,
pas
la quatrième, si vous voulez. Oui. C'est un E, la quatrième.
Ah, bah voilà.
Ah, bah, c'est un début. Ça...
Voilà. Ah, on va encore perdre 300 euros.
Flambie, petite. Flambie.
Flambie, non.
T'as des actions. Flambie.
C'est un film muet en 12 épisodes, produit par la Gaumont, hein, quand même.
Et oui, mais moi, je l'ai au bout du... Non,
ah,
moi,
non moi, c'est, ah, bah, c'est on va aller chercher. Franju, il faut que ça revienne.
Franju, non. Non,
non mais Franju, c'est
ah, Franju,
le réalisateur.
Franju, c'était le réalisateur, le dernier réalisateur.
Fenouillard.
Fenouillard, non.
Signé Furax.
Furax, Camembert, non, non, non. Ah non, on n'est pas loin, c'est dommage.
Pas loin de quoi ?
De rien, mais...
Ah bon ?
Je suis pas loin, j'ai la réponse devant les yeux. Ah
oui, non, mais moi, je vois très bien. La Gaumont l'avait même utilisé dans, son, dans
oui.
ses pubs.
Eh oui, et Gottlieb aussi l'a parodié dans ses
ah, Super c'est, Dupont. C'est le petit bonhomme, là.
C'est un mec qui a un masque. Très
dans vivant, la rubrique Abrac, là, vous voyez.
Comme super résistant.
Et qui a un manteau.
Ah,
qui
a un
il y avait un commissaire qui s'appelait Bougret, qui cherchait un justicier qui s'appelait.
Dandy Boulard.
Non,
c'est pas terrible, Boulard.
C'était joli comme nom.
Non, c'était pas joli, non. 300 euros. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce personnage ? Deux mains se lèvent. Une là, une ici, oh là monsieur là. Beaugrand. Allez voir.
Allez,
alors, il y a une main par ici.
Est-ce qu'on va perdre 100 euros encore ?
On va voir.
Oh là là là.
Alors, bonjour, comment vous appelez-vous et vous venez d'où ?
Je m'appelle Olivier, je viens de Versailles.
Et alors, Olivier de Versailles, donc, est-ce que... J'aime beaucoup Olivier de Versailles. Très bien. Est-ce que vous avez la bonne réponse, Olivier ?
Judex.
Et c'est Judex.
Ah oui.
Bravo.
Excellente réponse. Félicitations. Eh oui, enfin Valérie.
Ah ouais. Alors, mais vous auriez dû nous aider en disant que c'était un traître.
Ah comment ça ? C'est pas un traître.
Judas.
Non, oui, mais
c'est Judas. Pas, je vous ai dit que c'était pas une racine très...
Très, très chaleureuse.
Vous voyez
C'était ça, la
Judex, moi, je ne savais même pas.
Ça ne dit rien du tout.
Rien du tout. Moi, je trouve qu'on dirait une marque de viandox, c'est un peu...
Ah non, ça fait dégueulasse.
Ou un goût de revenez-y.
RTL. La valise.
La valise RTL, qui est une nouvelle valise, elle a été gagnée. Alors, il y a 1098 euros dans la valise, une gamme complète de cosmétiques bio à la bave d'escargot de chez Mademoiselle Agathe. Et attention, parce que
j'aimerais bien la gagner.
Julien Courbet a ajouté quelque chose ce matin. Il a ajouté deux places pour le film « L'amour, c'est mieux que la vie », le dernier Lelouch, à l'occasion de la sortie au cinéma de ce 50e film de Claude Lelouch. Alors là, c'est évidemment la petite difficulté parce qu'il faut avoir en plus écouté Julien Courbet ce matin pour connaître le contenu de la valise.
Mais ce n'est pas une difficulté, c'est un plaisir.
À qui on va confier cette valise ? Si on la confie à Michel Bernier ou Valérie, qu'est-ce que vous voulez, Valérie ?
Non, mais confiez-la à Michel.
Mais non, mais on fait toutes les deux. Toi, tu fais le prénom, moi, je fais le nom.
Ah oui, faites-la à deux voix, ça va être bon, original.
Je la donne à Michel et Valérie, voilà. Vous donnez un numéro.
Allez, moi, je donne le 8.
Et nous, rien, quoi.
Ah, bah, non.
Toi, tu penses à tes sponsors qui sont bien déçus depuis le début de l'émission.
Alors, madame.
J'ai donné le 8, hein. Tu m'as dit le 8.
Judex, vous auriez pu trouver, monsieur Berléand, Judex.
Mais je l'ai dit, hein. Ah,
Il l'avait mis avec Kevlar.
Oh, l'escroc.
Quel crapule.
Isabelle Bourdin habite à Ergues-Gabéric, dans le Finistère. Ouais. Mme Bourdin ou Mademoiselle Bourdin. Mademoiselle Bourdin est-elle chez elle ? Monsieur Bourdin, on sait que maintenant il est chez lui.
Mais...
Ah, ça, oui.
Ça, monsieur Bourdin est chez lui, c'est sûr.
Mais mademoiselle Bourdin,
il
Isabelle.
Il a fait enlever sa piscine.
Allô ?
Allô ? Oui,
allô, Isabelle ?
Oui ?
Isabelle Bourdin ?
Oui, madame.
Mais la vraie Isabelle Bourdin ?
La vraie.
La vraie, celle qui habite dans le Finistère ?
Oui, avec Ergues-Gabéric. Oh,
j'adore ce nom de... Vous pouvez me répéter le nom de là où vous habitez ?
Ergues-Gabéric.
Ah, elle le dit bien.
Ça a l'air bien.
C'est beau,
vous savez pourquoi on vous appelle ?
Ouais, pour la valise RTL.
Oh, allez, allez.
Vous êtes Michel ?
Oui, bravo Isabelle.
Vous avez reconnu Michel Bernier, bravo.
Ah oui.
Vous l'aimez bien, Michel ? Elle est unique, Michel Bernier.
Alors, je l'aime beaucoup. Et puis, ma maman est une fidèle de Michel parce qu'à chaque fois que je venais à Nantes, elle va vous voir.
Ah, bah, j'étais à Nantes samedi.
Alors que vous, non, pas du tout.
Ben non.
Pourquoi elle ne vous emmène pas, votre maman, Isabelle ?
Oh, parce que moi, je suis à Quimper et puis elle est à Nantes.
Ah, bah, oui, bien sûr. On
ne
peut pas tout faire en même temps.
Alors, chère Isabelle.
Alors, 1098 euros ?
Oui, ça c'est bon.
une gamme cosmétique bio à la bave d'escargot de chez Mademoiselle Agnès.
Agathe,
ah.
Agathe,
Agathe. Agathe. Mais, ah, c'est Agathe. Ah,
oui,
ah.
Agathe. Ah, oui.
Mademoiselle Agnès, c'est l'habilleuse.
Oui. Alors ça, c'était hier.
Elle en a
matin...
bavé aussi.
Ce matin, comment il s'appelle, Julien Courbet a mis deux places de cinéma pour aller voir L'amour, c'est mieux que la vie de Claude Lelouch.
Oh là là,
alors là,
Isabelle, bravo.
Alors là, vous êtes une fidèle de chez les fidèles, Isabelle.
Ah, ce jour à la plagne, on peut lui filer quand même aussi.
Et c'est vrai qu'il y a en plus un coffret DVD de toute la filmographie de Claude Lelouch.
50 films,
vous vous rendez compte?
Ça prend de la place.
Vous allez recevoir 50 DVD, des escargots, enfin de la bave d'escargots. Et puis surtout, 1098 euros, c'est toujours bon à prendre.
Ah, carrément. Ah,
génial.
C'est rare que la valise soit gagnée comme ça.
Ah, c'est merveilleux.
Deux jours de suite.
Ah, surtout qu'avec vous, j'ai gagné. Je gagne tous les ans, en fait.
C'est pas vrai.
Vous avez déjà gagné la valise?
Isabelle, elle habite une grosse valise maintenant.
Oh là là.
Vous avez déjà gagné la valise?
Jamais, mais j'ai gagné une fois 300 euros.
Oui.
Une fois un voyage dans le sud de la France à Bidart, une semaine.
Oui. C'était bien.
Une autre fois un week-end
à
Strasbourg.
C'est une blague? Ah oui.
Mais le week-end à Strasbourg, j'y suis pas allée parce que Quimper-Strasbourg.
À pied, c'est long.
La peau des fesses.
On vous a reconnu, Madame Ruquier.
Ah, parce qu'il ne vous offrait pas le voyage.
Moi, je suis contente. Hein.
Quand même.
Tant mieux. Alors.
Ah oui, parce que là, vous êtes une gâtée de RTL, dites-moi.
Ah, oui, mais je suis une fidèle. Hein. Hier, la dame, quand elle a gagné, j'avais tout aussi. Je me disais, ah, quand est-ce que ce sera moi? Je m'inscris tous les jours depuis que vous êtes à RTL. Alors,
oh là 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 là.
Mais vous savez où est votre mari, là, quand même? Parce que...
Oh, il est à la maison, il a le Covid.
Bon, ok.
Mais est-ce que vous faites la même chose avec toutes les radios ou uniquement avec RTL?
Ah non, que vous. Ah, bien sûr.
Alors c'est bien.
Vous me rassurez, Isabelle.
Vous embrassez M. Bourdin, mais pas trop fort. Hein.
Je vous ai
pas trop près.
Je vous ai demandé ce que vous faisiez dans la vie.
Alors, je suis secrétaire dans un cabinet d'architecte.
Très bien, mais aujourd'hui, vous ne travaillez pas, alors.
Si, je suis au bureau, là.
Ah, vous êtes au bureau. Ah
oui, elle a collé le Mario.
Oui, et vous n'êtes qu'à contact et vous allez travailler quand même.
Ah bah non, mais moi je suis toute seule dans mon bureau. Je suis
enfermée.
Non, mais à la maison, vous êtes quand même dans le fumard avec Monsieur Bourdin.
Il y a une FNAC à Quimper.
Non, ça me
elle n'a pas écouté l'émission.
Eh bien, vous allez écouter RTL cet après-midi. Et d'abord, vous entendrez gagner la valise.
Ouais.
Et puis surtout, vous saurez tout sur Judex, le poussin pipiou.
Cindy Sander.
Cindy Sander.
Ah oui, la grande.
Ah, et Van der Gut aussi.
Kurt Van der Gut.
Plein de trucs.
La Madone des Sleeping. Vous allez pouvoir tout réviser.
Et Françoise Dorin aussi.
Et François, oui, ça.
Et vous saurez
essayer de regarder ce qu'on a fait. Balzac, à un moment donné, on a dit Balzac.
Oui, oui, oui.
Et Colophon aussi.
Et Colophon, madame.
Et Tabari.
Vous savez ce qu'est
un Colophon.
Et c'est surtout vous qui allez donner un nouveau montant pour la valise.
Ah, ben moi je vais donner du coup. Alors c'est vrai que la dame avait donné un beau montant, ben je vais lui mettre plus 1 euro, 1099.
1099 euros dans la valise. Et j'ajoute même déjà à moi-même 250 euros de bons cadeaux à valoir sur le site cadeau.com. Vous connaissez le principe de cadeau.com?
Bien sûr.
C'est une boutique en ligne spécialisée, François, dans les cadeaux personnalisés.
Bien sûr.
Vous voulez offrir, je sais pas moi, par exemple un bracelet,
un slip avec votre nom
un
dessus,
savon, un petit cœur, une tête d'oreiller, un coussin.
Un gilet pare-balles. En Tevla.
Un gilet pare-balles, mais avec marqué dessus Berléan ou Je t'aime François.
Un slip éléphant, par exemple.
Ou un slip éléphant.
Il devrait le faire à la FNAC, ça.
Ou François Xavier pour la vie, ou tous les soirs avec du Léry. Enfin, vous voyez, ce que vous voulez, vous pouvez l'écrire dessus. Vous personnalisez votre cadeau sur cadeau.com. 250 euros de bons cadeaux sur cadeau.com, en plus des 1099 euros décidés par notre auditrice qui, elle, vient de gagner la valise.
Bravo,
bravo
Isabelle.
Encore, Isabelle.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Mais oui, qui peut bien être l'invité mystère?
C'est une bonne question.
Bonjour, invité mystère.
Bonjour.
Vous avez le montant de la valise, invité mystère?
1099.
Ah, il écoute bien.
Bravo.
C'est bien, bravo. Mais c'est perdu parce qu'il faut attendre demain maintenant pour jouer à la valise. Vous allez jouer à répondre aux questions de mes camarades grosses têtes, c'est déjà pas mal. Et c'est parfois même très compliqué. C'est parti.
Vous êtes un homme?
C'est un monsieur, oui.
Vous êtes un homme?
Je suis un homme.
Oui. Un vrai, un tatoué?
J'ai deux tatouages, effectivement.
Est-ce que vous êtes un peu poilu ou pas spécialement?
Tout à fait, voire même poilu.
Ah, vous êtes très poilu.
Ah, vous êtes très poilu.
Est-ce que vous êtes humoriste?
Je l'ai été.
Est-ce que vous êtes blond ou brun?
Châtain.
Est-ce que vous avez des enfants?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'il a le temps. Manifestement, si on le connaît depuis moins de 10 ans, il y a des chances qu'il soit effectivement, Valérie a raison, assez jeune.
Oui,
non, mais Chantal Latsou a été connue vieille, elle avait déjà des enfants.
Pour l'envisager.
Est-ce que quelqu'un de votre famille est aussi connu que vous?
Oui.
Non. Voici un premier indice musical.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Dididouam, didi, dididam, dididou. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Dididouam, didi, dididam, didi. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien. Car on suit le même chemin.
Alors, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de Sheila, hein, évidemment, qui chante. C'est évidemment la chanteuse qui compte. Vous avez reconnu sa voix, vous, invité mystère?
Oui, oui, bien sûr.
Et oui. C'est à vous qu'elle s'adresse, d'ailleurs, vous, les copains, hein, parce que, effectivement, vous avez ensemble, il n'y a pas si longtemps, on peut le dire, dans un film. Allez, j'aide mes camarades. Mais qui chantait? C'est ça, le problème. Valérie Mérès propose Ringo. Est-ce que vous êtes Ringo? Dites-donc, si on a retrouvé Ringo, on est fort.
Ringo ou Lil Chat?
Un petit jeune.
Je ne suis pas Ringo.
Je crois qu'il n'est plus là.
Est-ce que...
Puis là, Ringo.
Ringo, non, médiatique.
Mais je crois qu'il vit encore, Ringo.
Oui, on parle de Ringo qui était le mari de Sheila il y a très longtemps.
Tout à fait.
Donc vous, vous êtes trop jeune pour avoir connu Sheila.
Est-ce que vous faites souvent de la scène?
Oui.
Est-ce que vous avez l'insolence de la jeunesse?
Tout à fait. Si je la comprends comme vous l'entendez, oui.
Est-ce que vous êtes engagé politiquement?
C'est le moment d'en parler.
Dans ces cas-là, j'ai envie de répondre, et ta sœur.
Ah, oui.
Non, mais et justement, ça... écoutez-la. C'est bien votre sœur qu'on entend chanter.
C'est ma sœur, mais c'est trop facile.
Ah, il y a une sœur chanteuse.
Vous avez une sœur connue, donc.
Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs ou vous n'avez qu'une sœur?
J'ai deux sœurs.
Vous avez deux sœurs?
Les deux chantent.
C'est les Jackson 5. Ouais.
C'est Cindy...
C'est pas Cindy Sander. Vous êtes le plus connu dans la famille ou...
On peut dire pas pour l'instant encore. Ça dépend des générations.
Je ne suis pas du tout le plus connu de la famille.
Ça dépend des générations, on va dire. Voilà. Valérie Mérès vous a identifié. Bravo Valérie, c'est la première grosse tête à avoir deviné qui vous êtes. Voici un troisième indice.
Il y avait cette fille au fond du bar, aux longs cheveux bouclés. Il faut la voir quand elle se marre, le temps peut s'arrêter. Elle a toute une perle rare, comme dans les contes de fées. Je me dis qu'il n'est pas trop tard pour aller lui parler. Je dresse le col de ma chemise, j'ai la braguette en tour de piste. Je préviens mes amis que ce soir j'ai le mojo à 10 000. J'avance les mains dans...
Ah, vous étiez en duo encore à cette époque, n'est-ce pas, Vité Mystère? Michel Bernier vous a reconnu. Bravo, Michel. Ah, les deux grosses têtes féminines savent qui vous êtes.
Elles sont fortes, mais là, on est... moi, je suis un peu paumé, là. J'avoue, je suis un petit peu paumé. J'ai du mal à voir votre univers, là.
Je connais personnellement un des invités mystères.
Ah, ben, bah, vous pouvez dire qui, alors?
François-Xavier.
Ah, vous connaissez François Bernier personnellement?
François-Xavier.
Ah, François-Xavier. Je suis sourd.
Ah, François-Xavier.
Bah alors, je suis désolé, invité mystère, de ne pas te reconnaître.
Ah, attention, on se connaît, on se voit pas tous les jours, hein.
Non, ce serait sa femme, autrement.
Mais vous avez tourné ensemble? Non, non plus.
Non, j'ai fait sa première partie.
Oula!
Ah oui,
alors
là, il devrait souvenir, là.
Alors, voici un autre indice. Ah bah nous voilà partis pour l'Eurovision, n'est-ce pas, invité mystère?
Bah moi, je vois quelqu'un, mais vous n'êtes pas humoriste.
On va dire qu'elle est...
Ça va pas être lui.
On va dire qu'elle est plus chanceuse que vous, n'est-ce pas, cette chanteuse qu'on vient d'entendre. Oui, Christophe Beaugrand, vous avez effectivement reconnu notre invité mystère.
Ah, alors, je suis très content qu'il soit là.
Est-ce que vous êtes très beau?
C'est difficile comme question.
Ça dépend des goûts.
Oh ben, ça dépend des goûts. Faudrait être difficile quand même. Hein.
Bernard Mabie pense à Old Olaf. Est-ce que vous êtes Old Olaf?
Je ne suis pas Old Olaf.
Puisqu'on était dans l'Eurovision avec quelqu'un qui, elle, n'a pas souffert de la pandémie, contrairement à vous, voici quelqu'un qui, lui aussi, a chanté pour le concours Eurovision de la chanson. Et en plus, il va nous donner un gros indice supplémentaire.
Tom danse ce soir, je crois qu'il est sincère. Pas de faux semblant, il sourit à le regard en clair. C'est lui qui nous éclaire. Tom ne nous ment pas. Dis-moi ce que tu gardes sur le cœur, je t'entends pas. Dis-moi, ça reste juste entre toi et moi.
Tom, chanté par Bilal Hassani.
Ah bah oui, là, oui.
La Berléand, franchement, si vous ne trouvez pas après ça... Non, toujours,
ah oui.
Toujours pas.
Allez, c'est même Nicolas Feuillade, vas-y.
Même Mabie a trouvé.
Oui, oui, avec Tom, oui.
Avec Tom, oui, vous voyez.
Bah oui, ça fait quand même un gros indice.
François Berléand joue dans une série dans laquelle je suis en ce moment. Mais peut-être qu'il n'a pas vu.
Mais François, il ne sait même pas qu'il joue dans cette série.
Non. Ouais,
il est allé faire un hold-up.
Il est allé, puis...
Qu'est-ce que fait ? Est-ce que je dégaine le dernier indice pour François Berléand ?
Allez, oui, allez.
Je suis obligé, allons-y.
Je vais pas en rajouter, mais je suis pas aussi fort que tu crois.
Ça, c'est le papa, hein ?
Ouais.
Remets donc ça pour ma chérie. Et un dernier pour la roue.
Bon, on abandonne hein, Berléand.
Oh oui, Berléand, il est au pâquerette.
On abandonne Berléand.
Il est dans les choux, pardon.
Ah oui, il est dans le Kevlar.
Je me tourne vers toutes les autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est...
Tom Leb.
Tom Leb qui nous rejoint. Tom Leb était bien notre invité mystère.
Merci. Ah, c'est vrai qu'il est moche, hein, vraiment.
Ouais. Eh oui, vous allez pouvoir le voir dès demain soir dans une série qui s'appelle L'amour presque parfait. Ça a commencé la semaine dernière, mais c'est alors, deux épisodes.
Je suis au théâtre, c'est pour ça que je ne veux pas regarder les...
C'est...
tu ne te regardes pas en fait dans ce que
c'est
tu tournes.
C'est deux épisodes chaque mercredi. On a eu deux la semaine dernière, on aura deux demain et deux la semaine prochaine. C'est bien ça, Tom Leb?
C'est ça, vous avez tout dit.
Et François Berléand est dans la série, sérieux?
Oui, il est dans la série, il joue le père de Maud Becker.
Ah bah voyez, alors...
Ça lui revient? Non, pas trop.
Non, c'est très étrange, mais j'ai marqué Becker, mais tout à coup, ça... Bah non, c'est pas possible.
C'est une femme.
C'est ça. Je me suis dit, ça doit être ça, mais tout à coup...
Maud Becker, Nadia Rose, Isabelle Vitari, Tom Leb, Antoine Duléry et Evelyne Bouix sont à l'affiche de cette série, mini-série, six épisodes en tout. Ça a commencé la semaine dernière, mais je pense qu'on peut regarder demain soir, même si on a raté les deux premiers.
Oui, voilà. C'est une comédie romantique très légère, donc oui, ça peut se prendre n'importe quand.
Ça peut se prendre n'importe quand.
Ah oui, c'est ce que, oui, j'étais en train de me dire là.
Les comédies légères se prennent.
Et Tom se fait passer pour un homosexuel dans une cohabitation.
Ah, alors si tu as besoin de conseils pour ton rôle, moi je te.
Coach. Arrête maintenant, toi t'es père de famille, coach. C'est bon, tu ne l'as
Mais vous savez, la fidélité est un concept très ancienne.
Mais vous avez regardé les deux premiers épisodes alors, Valérie?
Oui, j'en ai regardé, enfin la fin, parce que j'étais sortie avant, mais j'ai vu. Et voilà, si vous voulez cohabiter avec moi, j'adore les homosexuels.
Mais c'est vrai que vous mentez dans cette série, non, alors.
Ah oui, c'est un bon menteur, mais voilà, il est sympathique.
C'est-à-dire que l'histoire, pour moi, part d'un mensonge. Et puis, c'est le principe d'une comédie.
Mais il est plus sympathique que dans la série de TF1, où il était horrible, la série avec Claire Kem.
Oui, bah là, c'est une comédie. Donc, très les méchant. Personnages sont sympathiques, oui.
Alors, absolument. Effectivement, Antoine Duléry et Evelyne Bouix, on va dire, sont les adultes dans cette série. Autrement, c'est une série plutôt jeune qui parle d'humour, d'amitié et d'amour. Oui. On est bien d'accord?
C'est ça, voilà.
Et Tom Leb sera donc demain soir à nouveau dans cette série pour deux épisodes, deux fois 52 minutes à 21h10, c'est sur France 2, L'amour presque parfait. Mais on va devoir expliquer les indices. La première jeune femme qui chantait, tout simplement.
Oui. Camille.
C'est Camille Lou qui chantait.
D'accord.
Oui.
Elle était dans Pourri gâté avec Gérard Jugnot, Tom Leb.
Oui. C'est ça.
Et vous avez fait un carton sur Netflix.
Très
oui,
sympa.
Oui. Alors, c'est à la grande surprise, puisque le film il a bien marché en France, mais il a connu un succès énorme dans le monde entier. Et c'est surprenant quand un film part comme ça.
Tu prends bien les accents, hein? J'ai vu le film, tu prends bien les accents.
Ah, oui, oui, j'aime ça en tout cas.
Ah bah oui, lui, il joue un personnage qui ment encore.
Oui,
d'ailleurs.
Oui.
Ah, vous êtes un menteur
c'est ça, ouais.
Fiefé au fond, hein, Tom
on
Leb.
On m'embauche pour mentir, c'est ça.
C'est bien Fanny Leb qu'on a entendu ensuite dans le deuxième indice. Tout le monde chante dans la famille, en fait.
Bah oui, à part mon autre sœur, mais et encore, maintenant qu'elle vient d'avoir une fille, elle se met à chanter.
Elle chante bien. Hein.
Ouais. Après, on vous a entendu, c'était à l'époque, vous étiez en duo d'humoristes, justement, Kevin et Tom. Vous aviez oublié...
Ah oui, j'étais passé à côté. Là.
Il avait fait ma première partie, ce duo, à Monaco.
Exactement.
Ça vous revient, vous voyez,
ça me revient. Et on a tourné ensemble dans le film de Rimkerissi, Jour J.
Voilà. Ah oui, très drôle.
Pour l'Eurovision, eh bien, effectivement, on a entendu Barbara Pravi qui a chanté « Voilà, voilà » à l'Eurovision 2021. Super. L'année d'avant, en 2020, ça avait été annulé, mais c'est Tom Leb qui devait représenter la France à cause de l'épidémie. On n'a pas suffisamment entendu cette chanson. Finalement, pas de regret parce que ça se passe très très bien depuis.
Oui, et puis même, moi, comme je dis souvent, j'avais prévu ma carrière sans l'Eurovision. Donc quand on m'a dit que ça n'allait pas se passer, bah,
et voilà, la route. Il y a tous les talents.
La preuve.
Tous les talents.
Tous les talents.
On vous engage au cinéma, à la télévision, peut-être au théâtre bientôt. En tout cas, demain soir sur France 2, deux nouveaux épisodes de L'Amour presque parfait à partir de 21h10. Merci Tom
Leb. Merci à vous, merci beaucoup
d'être venu nous voir. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.